tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Un peu en retard par rapport à d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Il y a eu une course de biathlon. On est très heureux de vous retrouver dans un remake d'Un jour sans fin. Vous savez ce film où c'est toujours le même jour. Le PSG vit ça. C'est le Bill Murray du foot, visiblement. C'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 152. Ça commence maintenant. Bonsoir à tous, plaisir de vous accueillir en direct sur la chaîne L'Équipe, sur le plateau de l'équipe de Greg. On va s'informer, se divertir autour de la planète football avec un sacré casting ce soir autour de la table. J'ai envie de dire comme chaque soir. Alicia Dobby, bonsoir Alicia.
Bonsoir Greg.
Ça va bien ?
Bonsoir.
Je suis obligé de dire comme chaque soir parce que sinon les autres vont se vexer, ça va être horrible et je peux pas provoquer une guerre dans le DG. Bonsoir Dominique Grimaud.
Bonsoir Greg.
Vous êtes chic là. On dirait, voyez, on dirait un peu Belmondo, un peu Delon, le col ouvert. Ouais, un peu, j'aime bien, moi je vous trouve chic. Il est chic aussi dans un autre style, Jérôme Alonso. Bonsoir. Jérôme, bonsoir. Depuis qu'il a compris le code couleur et le code vestimentaire de l'émission, il s'habille comme Parker Lewis pour ceux qui étaient jeunes.
Ouais.
Bonsoir Loïc Tanzi.
Bonsoir Greg.
Comment ça va ?
C'est un compliment ?
Est-ce que comme lui, vous ne perdez jamais ?
C'est un compliment, ça va.
Ouais, c'est un compliment,
bien sûr. Surtout au jeu.
Là, on parle de style. On a l'empereur du style, Jim Rutissé. Bonsoir, Jim. Ça va bien ?
Ça va.
Et Raphaël Sebaoun. Bon, bah là, c'est Rafou.
Oui.
Ça, c'est mon petit Rafou, mon petit Gatelin.
Le petit gars, quoi.
Le petit gars.
Mais sympathique.
Mais un gars sûr.
Oui.
Un gars sûr et fiable. Et ça, ça fait plaisir.
Merci, Greg.
Merci, Raphaël. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ? Il n'y a pas beaucoup de suspense sur les thèmes de l'émission. On va se poser la question, peut-être cruellement, mais je pense avec justesse, est-ce que le PSG est à sa place ? Voilà. Une nouvelle fois éliminé en 8e. Ça fait 5 fois sur 7 participations. Oui, il y a une finale, oui, il y a une demi, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de huitièmes de finale. Le conseil de classe, on va prendre le temps de parler de beaucoup de joueurs et notamment du cas Marco Verratti, incroyablement décevant hier. Le PSG peut-il changer ? On ouvre déjà dès le lendemain le débat en se demandant si pour la énième fois, il est possible que ça change. Et vous verrez, il y a du débat. Parce qu'il y en a certains qui pensent que ça peut vraiment changer cette fois-ci.
Ah oui.
Et puis Corinne Diacre est écartée des Bleus après ses propos dans la semaine. Bon, cette fois c'est terminé. Philippe Diallo lui a annoncé. Elle n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France. On va en parler rapidement dans quelques secondes. On aura aussi Pierre-Antoine Damcourt pour la petite lucarne. Nous jouerons deux fois, malgré l'horaire qui change ce soir, le 18h-19h40. On jouera deux fois. Et il y aura le zapping. Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse des Bleus, rappelle.
Oui, le COMEX en a décidé ainsi. Ce matin, d'écarter la sélectionneuse de l'équipe de France dont les principales joueuses ne voulaient plus. Un groupe de travail doit être proposé, en tout cas doit proposer un nouveau sélectionneur ou sélectionneuse. Elle avait été maintenue, je vous le rappelle, en poste à bout de bras par Noël Le Graët, le président des missionnaires de la FFF, qui l'avait prolongé en août 2022 jusqu'en août 2024. Voilà donc, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France.
Et on va écouter Philippe Diallo, le président par intérim de la Fédération Française de Football, qui nous explique son éviction.
L'équipe de France n'était pas aujourd'hui au niveau de ses standards. Une rupture s'est créée et que j'ai pensé qu'il n'y avait pas de capacité à pouvoir faire un retour en arrière. À l'unanimité, ils m'ont fait une recommandation, j'ai été amené à suivre, qui consiste à devoir mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France.
Dominique Grimaud, j'allais vous poser la question, est-ce vraiment une surprise ?
Non. Pas une seconde.
C'était inévitable ?
Inéluctable. Mmh. Bah, dès lors que les joueuses ont pris le pouvoir, en quelque sorte, et l'ont lâché, elle doit évidemment s'effacer.
Après, c'est dangereux que les joueuses prennent le pouvoir, parce que ça peut créer une jurisprudence, et on se dit, bah, si je veux plus d'un sélectionneur, j'ai qu'à mettre 3 posts Instagram, non ?
Oui, bah, il suffirait que 5-6 joueurs clés de l'équipe de France masculine tournent le dos à Didier Deschamps, et son sort sera réglé de la même manière.
Alors en plus, c'est vrai que la fédération a de légers soubresauts là en ce moment. Vous avez peut-être pu suivre un peu ce qui se passe.
Oui, non.
On rappelle qu'on a un président par intérim. Non, mais c'est vrai que Jérôme, c'est rocambolesque en fait. Ça conduit au départ de Corinne Diacre.
Oui, c'est rocambolesque. C'est une première. Je rejoins Dom. C'était devenu un tonneau pour elle. Maintenant.
Elle disait hier. On avait lu. C'était hier. Je me permets. Elle nous disait le lynchage médiatique. Et je m'étais permis de préciser
mais
que.
Mais vous aviez dit.
Les joueuses.
Ça vient l'émission. C'est que nous, en fait, on n'a rien relayé.
On a lynché personne pour le coup.
On n'a pas donné d'infos en fait.
Non.
Et après, c'est
non,
factuel. Ce qui lui est reproché entre guillemets par les joueuses. Et de par son CV, puisqu'elle a mis son CV en avant.
Oui,
c'est pas nous qui l'avons fait, c'est elle.
Elle n'a pas gagné.
Il n'y a aucun titre, il y a des matchs gagnés contre les nations qui sont 150e mondial. Donc à un moment donné, vous avez dit oui, c'est la porte ouverte à n'importe quoi après. Oui. Sauf que ça n'a jamais été fait. Donc posons aussi la bonne question.
C'est pour ça que c'est
pourquoi
c'est
maintenant
quoi.
Voilà. Oui, donc on peut
Coupe du monde qui arrive, on rappelle. Hein.
Mais est-ce que aussi ces joueuses là ont une crédibilité, une légitimité et une raison sérieuse pour
et la réponse à ça? La réponse, votre
moi,
réponse.
Je pense que oui.
D'accord.
Moi, je pense que oui. Si elles ne mettraient pas leur carrière en jeu avec le plus grand événement de leur vie qui
la
arrive.
La capitaine, on rappelle, pour ceux qui suivent peut-être moins le foot féminin, Wendy Renard, c'est une légende du foot féminin. C'est la capitaine de l'équipe de France. Ce n'est pas une joueuse lambda qui serait en bisbille.
Et puis, ce n'est pas le premier dossier duquel on traite là aujourd'hui. Pour Wendy Renard, l'équipe de France, c'est une douleur. C'est une douleur depuis qu'elle est arrivée. Je suis désolé.
Oui, c'est effectivement, Jérôme, des tensions qui avaient commencé il y a déjà plus de 2 ans entre la sélectionneuse et des joueuses phares de l'équipe de France. On pense à Amandine Henry, écartée par Corinne Diacre depuis novembre 2020. Elle qui était capitaine des Bleus lors du Mondial 2019 et après l'échec de cette Coupe du Monde, la milieu de terrain avait lancé une première bombe chez nos confrères de Canal+. Humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, il m'est arrivé de pleurer dans ma chambre car j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde, mais ça a été un chaos total. 1 an et demi plus tard, elle ne sera pas retenue pour l'Euro alors qu'elle sort d'une super saison. Donc, ce n'est pas forcément une décision sportive. La Lyonnaise, lui, elle l'avait dit, ça ne matche pas, c'est tout. C'était dans un entretien à l'équipe, d'ailleurs. Une autre cadre des Bleus, ancienne vice-capitaine, d'ailleurs sous Corinne Diacre, avait été écartée aussi. Il s'agit d'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. Elle non plus n'a pas été retenue pour disputer l'Euro l'année dernière. Donc, des précédents, effectivement, entre Corinne Diacre et des cadres de l'équipe de France féminine.
C'est pas nouveau tout ça, mais Djibril, je vous donne la parole à faire dans un instant, mais je voudrais qu'on rebondisse sur ça parce que vous avez connu l'équipe de France, vous avez connu différents sélectionneurs, vous avez été, peut-être que vous en aimiez certains plus que d'autres, et puis c'est comme ça, comme pour les coachs. Une révolte de joueuses stars, est-ce que ça peut être une jurisprudence dangereuse pour le foot?
Ben ouais, ça peut être dangereux parce qu'à chaque fois que tu t'entends pas avec ton coach ou ton sélectionneur, ben tu décides de pas t'entraîner ou tu menaces de quitter le club et on fait sauter qui est en place. C'est ouais, ça peut être à double tranchant, ouais. Mais après pour je pense que pour l'avoir fait, j'ai côtoyé un peu Wendy. J'ai pas envie de dire que je la connais personnellement, mais j'ai cerné à peu près le personnage. Pour en venir là, c'est que ça devait être invivable. Ça devait être invivable.
T'as compris
que
voilà.
C'est compliqué. Voilà. C'est pas, on fait pas là, ça comme ça.
Ça veut dire qu'on les fait revenir. On est certain que les joueuses vont revenir, que la porte est ouverte.
Oui. Bah, évidemment. Nous, enfin, moi, je comprends ça.
Naturellement.
Je pense que c'est pour faire venir, et peut-être même d'autres encore qui étaient en bisbille.
Oui, c'est
deux fois que je dis bisbille en 2023, ça se dit plus trop bisbille.
Oui, mais c'est bien de revenir. Les vieilles expressions vous du jour comme ça, c'est
chichi. Garo bisbille, non, ça
mais est-ce que, quelque part, désormais, ça peut pas dépendre du nouveau sélectionneur ou sélectionneuse de l'équipe de France, parce que maintenant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir ce fameux comité de travail qui va décider de qui sera le nouveau ou nouvelle en poste. Peut-être celui qui fait office de favori, c'est Gérard Prêcheur, l'actuel gardien entraîneur. Du Paris Saint-Germain féminin. Éric Blahic, lui, est libre. On vous a dressé cette liste.
Où il semblait être le favori des filles.
Sonia Beaupassport ou encore d'autres sont présents pour, pourquoi pas, prendre la succession de Corinne Diacre.
Donc, les joueurs ont décidé aussi.
Bah, ma question, Loïc, parce que vous suivez ça aussi de près, est-ce que ça existe? Est-ce que ça arrive parce que la Triple F est faible? Parce qu'en ce moment, c'est un peu le chaos dans cette fédération. Est-ce que dans une fédération forte, avec un président incontournable et incontestable, ce genre de choses peut arriver?
Pour moi, ils ont été déjà trop faibles depuis le début. C'est-à-dire qu'ils auraient dû comprendre très tôt qu'il y avait un problème avec Corinne Diacre et qu'ils auraient dû la faire partir. Après, ils ont attendu que la situation soit... C'était plus possible aujourd'hui qu'elle reste sélectionneuse.
Vous voulez dire qu'elle serait partie après une compète où il n'y a pas de podium, par exemple?
Après la Coupe du Monde, peut-être. Mais on ne peut pas quand même cautionner ce qu'ont fait les joueuses aujourd'hui. C'est-à-dire que, quoi qu'elle arrive, c'est quand même des joueuses de l'équipe de France qui décident de dire on quitte l'équipe de France, on lâche le navire juste avant le début d'une Coupe du Monde parce qu'on s'entend pas avec la sélectionneuse.
Et ça ne paraît pas, la ficelle n'est pas un peu grosse pour être réelle, finalement? Est-ce qu'il y a vraiment un malaise qui les empêchait de développer
Je pense que c'était trop fort.
Est-ce qu'on peut aussi leur donner ce crédit-là d'avoir dit voilà, moi, je mets ma carrière en danger pour vous faire passer un signal d'alarme?
Il y a d'autres moyens. Des interviews, des relais. Aller dans les médias, prendre rendez-vous avec le président de la
Fédé. Il n'y a pas que des anciennes qui l'ont fait, des jeunes qui l'ont fait aussi.
Tu peux être plus direct. Tu peux dire, t'es Wendy Renard, t'es la capitaine. Tu peux aller faire une interview en disant voilà, je ne veux plus que Corinne Diacre soit
sélectionnée. J'entends ce que Jimmy et toi vous dites. Voilà, c'est dangereux.
On finit avec ça, Jérôme.
Mais juste. C'est dangereux, mais il y a Wendy, qui est une ancienne, mais il y a des jeunes qui l'ont fait aussi. C'est ça qui m'a touché, qui m'a frappé.
Ah oui, mais
c'est qu'elles mettent en péril le plus bel événement de leur carrière, certainement.
Et l'équipe de France.
Pour faire passer un message. Oui, mais
elles mettent en péril l'équipe de France.
Justement, on peut
aussi
se demander pourquoi elles le font. Est-ce que c'est pas vraiment au fond d'elles-mêmes qu'elles se sont dit, OK, notre dernière bouteille à la mer, c'est ça.
Donc on est prêt à lâcher une Coupe du Monde parce qu'on n'est pas d'accord
justement,
avec la sélection.
Est-ce que le drame est pas. Enfin, drame, pardon, sportif et humain n'est pas plus profond.
Oui, moi je ne parle pas de la carrière, je parle de l'équipe de France en général.
Je parle du management par rapport au management.
Allez, Djibril, le mot de la fin.
Le truc, c'est qu'est-ce que la situation le grette a fait qu'elles se sont dit, bon, il y a peut-être moyen que...
Ah ben ça, c'est sûr, évidemment.
Parce qu'avec le Gret en place, elle reste en place et puis...
D'où la fédération Maïsson,
la petite porte ouverte,
plouc.
Bien sûr. Ah ben ça, c'est sûr.
De toute façon, la nature n'aime pas beaucoup le vide. Hein. C'est évident. D'ailleurs, lui, il n'est pas dans le vide. Et encore, je ne sais pas s'il est plein, le centre Aurédoux, c'est le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est Jérémy Janagro qui est notre envoyé spécial. On vous envoie là-bas pour voir ce qui se passait au lendemain de cette nouvelle élimination. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous. Racontez-nous la journée au centre d'entraînement, qu'est-ce qui s'y est passé ?
Bonsoir Greg, on va vous raconter donc la journée du Paris Saint-Germain au lendemain de cette défaite face au Bayern. Les Parisiens qui sont arrivés aux alentours de midi à l'aéroport de Paris. Ensuite, ils ont emprunté un bus qui les a conduits ici au centre d'entraînement, au camp des loges où on se trouve avec Victor Coudreau à Saint-Germain-en-Laye. Ils étaient donc tous présents au centre d'entraînement. Il y en a deux qui ont rejoint un van pour rejoindre leur domicile. Ensuite, on n'a pas réussi à les identifier à cause des vitres teintées. Mais les autres donc, ont fait des soins, des récupérations, toutes sortes d'activités qu'on peut faire en lendemain de match. On les a vus ensuite quitter l'entraînement. Une heure après être arrivé ici, aux alentours de 15h, le dernier qui a quitté l'entraînement, c'est Kylian Mbappé, qu'on a discerné à travers sa vitre. Il y avait deux supporters qui étaient là aujourd'hui, pas la grogne organisée qu'on aurait pu imaginer de la part des ultras au lendemain d'une défaite, de supporters qui ont pu voir Verratti qui s'est arrêté. C'est le seul joueur qui s'est arrêté pour signer des autographes aux supporters. Et on va écouter justement Geoffrey qui nous livre son sentiment au lendemain de cette défaite qui fait mal face au Bayern.
Déçu et un sentiment de un petit peu de voir qui s'accomplit jamais. Donc ça commence à être vraiment frustrant pour moi, pour nous. Nous, on était plusieurs hier à regarder le match et c'est un sentiment qu'on a partagé. De mon côté, j'ai même plus de colère en fait. Je suis plutôt résigné.
Voilà, ben je pense qu'on va parler justement de ce sentiment-là qui envahit beaucoup de supporters parisiens. On va revenir sur la défaite hier du PSG, 2-0 face au Bayern. Une défaite quasi inévitable.
Oui, alors le match aurait pu tourner en faveur du Paris Saint-Germain. Ce fait de jeu à la 38e minute de jeu avec Hakimi qui va aller au pressing de Yann Sommer. Il va perdre le ballon. Vitinha va frapper, mais De Ligt va surgir et repousser le ballon devant sa ligne. C'est peut-être, oui, le tournant du match pour le Paris Saint-Germain. Et puis il y a eu cette erreur vers Verratti, Müller au pressing et Goretzka qui va donner pour Choupo-Moting qui va ouvrir le score pour le Bayern Munich, la 89e, avec une perte de balle, une nouvelle dans le camp du Bayern de la part de Marco Verratti. Et puis derrière, il y a la montée de balle d'un des entrants de la partie du côté du Bayern, Joao Cancelo, qui va servir Serge Gnabry pour le but du 2-0. Le Bayern qualifié, le PSG éliminé.
On va écouter Kylian Mbappé nous parler de cette nouvelle désillusion.
Pour ces deux confrontations, qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là?
Pas grand chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, comme je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat.
On va rebondir sur cette phrase très forte de Kylian Mbappé. Notre maximum, c'est ça. Est-ce que le PSG est à sa place en étant éliminé une nouvelle fois en huitième de finale? On regarde vos réponses. Qu'est-ce que vous me dites? Bah oui, il faut le reconnaître pour Alicia. Mais oui, pour Dominique. C'est un... Montez-le un petit peu, vous êtes dans le bandeau.
Pardon.
Voilà, merci mon Jérôme. Oui. Oui aussi pour Loïc Tanzi. Et oui pour Djibril. Et oui. Alors évidemment, on n'est pas dans le débat du siècle par rapport à ça. On va revenir sur la défaite d'hier. Mais c'est intéressant de poser la question. Vous étiez au stade. Ouais. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal L'Équipe. Et donc, par la force des choses pour nous. Ça pourrait sembler sévère. Mais quand vous en êtes, et Raphaël montrera les chiffres à 5 éliminations lors des 7 dernières années en 8e, bah, la place, c'est que vous êtes là. Quoi.
Oui, au-delà de ça, Mbappé le disait au mois de septembre, mais ce n'est pas le seul. Luis Campos, après le mercato estival, lui-même est en train de dire à différents médias qu'il n'était pas satisfait du mercato, que l'effectif n'était pas équilibré, qu'il manquait un défenseur central, qu'il manquait un élément offensif après le départ de Sarabia au mois de janvier. Tout le monde, en fait, était. Il n'y a personne qui est surpris au club aujourd'hui par cette défaite. Tout le monde, en début de saison, s'attendait à ce que le PSG galère. Si ce n'était pas en 8e, c'était en quart face à notre gros d'Europe. Dès que le PSG allait affronter quelqu'un une équipe importante
Europe. Alors, quand on est le PSG, on peut laisser faire ça? Je ne comprends pas. Il y a un mercato d'ajustement.
Là, Mbappé, il ne vise pas Luis Campos. Il vise plus haut. Il vise Nasser Khelaïfi, il vise le propriétaire du club. Il estime qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires, il n'y a pas l'équipe nécessaire pour essayer d'aller gagner la Ligue des Champions. Quand il dit que le Bayern est une équipe bâtie pour la Ligue des Champions, ils ont un effectif bâti pour la Ligue des Champions, que ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, ils vise les décideurs, ceux qui mettent l'argent et ceux qui recrutent des joueurs.
Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quand c'est un effectif est mal construit, quand on est joueur, Djibril, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le sent dès le début ? Parce que Loïc semble nous dire il avait des certitudes sur une élimination.
Mais même le dirigeant, c'est ça le pire.
Ça vous surprend qu'ils disent ça, par exemple ?
Non, non, pas du tout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est hier les changements. Bayern, Mané, Gnabry, Sané qui rentre. Leur banc, il est fou. Quand, sans manquer de respect à Hugo, Zaïre Emery, c'est pas la même cour. On joue pas dans la même cour.
Effectivement.
Et pour gagner une Ligue des Champions, il faut un effectif ou alors il faut quelque chose d'autre. Il faut un cœur. Nous, on l'a gagné. Moi, je l'ai gagné en 2005. On n'avait pas de star pratiquement. Mais par contre, je peux vous dire qu'à la bagarre, on y en est.
On a comparé les deux bancs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich d'hier soir pour illustrer un petit peu ce que disait Djibril. Oui, il n'y a pas forcément la même qualité. D'un côté, il y a Mané, Gnabry, Sané, Gravenberg, qui est international néerlandais. Puis derrière, il y avait Joao Cancelo. Il est sur le deuxième but de cette équipe du Bayern. Il y a Mazraoui, il y a Daley Blind. Et puis, ces jeunes du côté du Paris Saint-Germain, Ekitike, Garbi, Zaïre Emery, Mukiele, qui est entré en jeu mais qui s'est blessé. Beaucoup de jeunes, Bichiabou également. C'est vrai qu'en termes de qualité, quand on compare les deux bandits, on a mis que les joueurs de champ.
Cancelo,
la même chose.
Dominique, c'est le mot est un peu fort, mais je fais ça volontiers exprès. C'est le procès de qui ce soir qu'on ouvre là pour faire le débrief
de le procès de qui?
Bah oui. Est-ce que c'est tout en haut? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs?
Est-ce que c'est club? Mais dans son entièreté, du haut en bas. Ça fait. On n'est même plus étonné. Le supporter, je l'ai écouté tout à l'heure, dit voilà, il est.
Blasé.
Voilà.
Habitué.
La culture de la défaite, malheureusement, est ancrée au PSG depuis maintenant beaucoup, 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 beaucoup trop de temps. Alors hier, c'est vrai que Vitinha aurait pu marquer le but. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que si Vitinha avait marqué, le PSG se qualifiait. Je crois pas du tout.
Pas le même match.
Pas le même match. Mais je crois, Jérôme, que la première mi-temps, c'est juste une illusion.
Ils sont plus faibles.
Mais le débat ailleurs,
quand même. Non, mais c'est une illusion.
Est-ce que plus qu'une illusion, c'est pas le niveau en prouvant qu'ils ne jouent que 45 minutes?
Non, mais c'est pas le niveau du Bayern. Le Bayern, les Bavarois jouent contre nature, ils se remettent en place à la mi-temps, ils développent en seconde mi-temps leur jeu, qui est naturellement porté vers l'attaque, très collectif, et ils emportent littéralement cette équipe du PSG. Et il n'y a personne au PSG pour tenir la boutique. Personne, absolument personne. Ni derrière, ni au milieu, comment au milieu, ni devant. Donc voilà, c'est une défaite, mais on ne peut plus, élimination, on ne peut plus logique. Moi, je crois que le véritable tournant, non, c'était l'hiver dernier. Il aurait fallu finir premier de la poule.
Tu peux pas, Benfica sont meilleurs que toi.
Bah oui, mais Benfica, non, tu perds pas.
Non, mais ce qui est étonnant, Dominique, je vous laisse redonner, mais il a, Dom, quand il dit ça, il a raison. Quand on voit le calendrier de Benfica, Bruges, c'est peut-être plus abordable que le Bayern. Après, peut-être pour faire bancaire, mais contre Benfica, il y a déjà une erreur sur un pénalty donné.
Mais évidemment.
L'an dernier, au Real, contre le Real, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. C'est ça que je veux dire, Dominique.
Benfica est meilleur que toi, surtout.
C'est niveau Dieu. Voilà. On en revient au niveau Dieu.
Et donc, le Bayern, très largement au-dessus, 21e participation de son histoire en quart de finale.
C'est bien.
21e fois que le Bayern se qualifie pour les.
Mais ils sont pas à l'abri. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient perdu en quart contre Villarreal.
Oui, d'accord.
D'ailleurs, cette Ligue des Champions, les danse. Hein.
Ils se qualifient.
Mais ils se qualifient en quart.
À l'inverse, Greg, d'un Paris Saint-Germain, on l'a un petit peu évoqué, qui sur les dernières saisons, a fait 5 huitièmes de finale sur les 7 dernières fois qu'elle a disputé la Ligue des Champions. Oui. Il y a eu la parenthèse enchantée, la finale, lors du Final 8.
Et puis,
cette demi-finale perdue face à Manchester City. Mais sinon, pour le reste, ce ne sont que des huitièmes de finale perdues face au Barça, face au Real, face à Manchester United, donc hier soir face au Bayern Munich. Et puis, il y a cette habitude désormais dans les huitièmes de finale retour, de ne pas arriver à faire la différence. On vous a listé les 10 derniers matchs retour à élimination directe du Paris Saint-Germain. Une seule victoire, un nul face au Barça, mais sinon, une seule victoire sur ces matchs retour à élimination directe de Ligue des Champions. Et c'est contre peut-être l'adversaire le plus faible de la liste, c'est le Borussia Dortmund.
Jérôme, je vous donne la parole dans un instant. Alicia, une revue de presse à l'unanimité, ça va pas?
Non, ça va pas du tout. On parle énormément du PSG partout en Europe. On va commencer en France avec ce constat dont on parlait, quasiment fataliste. On entendait le supporter parisien tout à l'heure qui n'était même plus déçu. Un Paris sans génie résume.
Il y a un petit chat là, non? Voilà, il y a un petit chat là.
Qui donc évoque l'échec de tout un club et notamment de sa direction. Un Paris qui n'a toujours pas le niveau pour le Parisien malgré l'argent dépensé par ses dirigeants. Et d'ailleurs, les médias anglais ne se privent pas de le faire remarquer. Une fois de plus, les dollars du pétrole qatarien n'ont pas réussi à trouver la gloire en Ligue des Champions, écrit The Sun aujourd'hui, alors que le Guardian en rajoute une couche. D'une certaine manière, c'est juste le mantra du PSG moderne. Déjà acheté, déjà échoué, peu importe, acheté à nouveau, échoué plus agréablement, échoué avec les deux meilleurs attaquants du monde disponibles. Et le dernier mot en Angleterre, il sera pour Jamie Carragher, l'ancien international britannique, aujourd'hui consultant sur CBS Sports. Lui aussi, il n'épargne pas le Paris Saint-Germain.
Ce n'est pas une équipe, c'est juste un gâchis. 5 années sur 7, ils se sont fait sortir en 8e de finale. Et ils dépensent plus d'argent que n'importe qui pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, Kylian Mbappé doit quitter cette équipe.
Tellement raison.
Ouais, il a raison, Jamie Carragher, dit Dominique. La presse espagnole qui met en avant aussi Mbappé et Messi, puisque Jamie Carragher en parlait en une de Sport, et ce titre sans appel, échec. Bref, le Paris Saint-Germain n'est pas épargné en Europe, alors qu'en Allemagne, forcément, on jubile. Là encore, avec un peu d'ironie, 1 million de bénédictions pour le Bayern après la victoire face au Paris Saint-Germain. Toujours cette histoire d'argent, de millions qu'on dépense, mais qui ne change rien. Et Julian Nagelsmann est encensé pour avoir assommé Paris, alors qu'encore hier, on vous disait que ce match était capital pour l'entraîneur allemand. Mais il s'en sort très très bien, Nagelsmann.
Merci Alicia. Jérôme, il y a un truc qui m'a frappé. Je changeais de question en voyant la revue de presse. Non, mais ce qu'ils mettent en avant, je le comprends, l'argent dépensé. Mm-hmm. Chelsea, ils sont en quart, ils ont dépensé plus que n'importe comment. Dom fait leur procès à chaque émission, je pense qu'il a raison aussi. City, on ne peut pas dire qu'ils ne dépensent pas d'argent. Tous les clubs sont extrêmement riches. Mm-hmm. C'est juste qu'en fait, il est mal dépensé. Soit vous donnez à 3 joueurs et vous affaiblissez le reste de l'équipe, soit vous choisissez... Ouais. En fait, c'est juste que l'argent, non, mais... ils l'ont comme les autres, voire peut-être plus... Mais qu'il n'est pas mis là où il faut.
Raison, c'est le jour sans fin, nous, c'est l'émission sans fin. En fait,
eh oui.
En fait on fait la main.
Moi, c'est ce sentiment-là.
Deux choses très rapides.
Non, prenez le temps.
Non, mais non, parce que sinon, il me faut 4 heures. Parce que non, mais j'ai vraiment les boules, en fait. En fait, j'ai les boules de même pas avoir d'émotion. En fait, je ne suis même pas triste. Alors que c'est un club que j'ai chéri, que je porte encore dans mon cœur, pour qui j'ai bataillé pendant 7 ans dans ma vie, que j'ai défendu à mes débuts à la télé, on m'a même reproché, c'était trop. Mais j'avais des émotions. Là, encéphalogramme plat. C'est-à-dire que, et comme tous les supporters du PSG aujourd'hui, je ne ressens rien.
En gros, vous avez pu faire l'émission tranquillement hier soir.
Ah oui, non, mais même hier soir, j'avais même pas envie de m'énerver parce que j'ai à un moment donné, bon. Et par rapport à ce que vous dites, et c'est toujours ce qu'on dit depuis des années, vous avez 2 projets qui s'entrechoquent. Mais t'as choisi ton projet. T'as le projet de globaliser la marque PSG à travers le monde, qui est réussi.
Là, ça a changé un peu l'année dernière. Ils ont voulu changer ça.
Alors, vaguement, oui.
Mais ils n'ont pas réussi à faire partie de Neymar, par exemple.
T'as dit que tu voulais changer.
Oui, mais c'est dur après.
Oui, d'accord. Et ça veut dire quoi? C'est année 1, il faut voir l'année suivante.
Quand tu pars dans ce projet-là, dans ce désir.
Tu peux pas virer les mecs.
Mais ça, on en parlera tout à l'heure du changement, Loïc. Gardez ça.
Quand tu veux globaliser ta marque mondialement, et qu'effectivement, tu prends des joueurs pour vendre des maillots plus que pour gagner la Champions League, demande à Djibril l'effectif qu'il avait quand il gagne. Et donc, lui, sa finale, comment il la gagne? Pas avec des méga stars. Il a gagné avec les tripes, avec le cœur, et parce que son board avait construit une équipe pour avoir des joueurs à chaque poste, doublés, je me rappelle très bien, capables de gagner la Champions League. Pas pour vendre des maillots et des cartables, et c'est très différent. C'est 2 projets différents.
Bon, on parlera de l'éventuel changement possible ou pas du PSG tout à l'heure. Raphaël Orsiégou, on joue après.
Jérôme a parlé qu'il n'a pas eu d'émotion, aucune émotion. Finalement, on en a eu un. Même pas sur le match aller, mais finalement c'est logique parce que Paris n'a pas marqué, que ce soit sur le match aller, le match retour, et c'est une première pour un club français en 8e de finale de Ligue des Champions depuis Lille. Ça remontait à 2007 qu'on n'avait pas vu un club français ne pas réussir à marquer un but soit en 8e aller, soit en 8e retour. Et puis finalement la seule équipe en 8e de finale qui n'a pas réalisé un match sans encaisser de but cette saison dans cette Ligue des Champions. À chaque fois ils ont pris des buts, les Parisiens. Voilà, c'est la seule équipe.
Ah, merci.
Je suis plus là.
Raphaël, c'est parce que vous n'êtes plus au bout. Allez, on joue.
Allez.
Oh putain, ça va. Alors, un conseil de classe, on va parler des joueurs aussi, parce que là, on parle beaucoup de la structure du club, mais il faudra aussi parler des joueurs dans un instant. Bah, non, mais c'est bien évident, mais on parle général, et puis après, on va vers l'individuel. Vous allez me retrouver, dans ce survivant, les 14 clubs qui ont le plus de victoires en Ligue des Champions sans l'avoir gagné depuis 1992. C'est-à-dire que depuis 1992 et la nouvelle Ligue des Champions, vous me retrouvez les 14 clubs qui ont gagné le plus de matchs, de poules, de quarts, de huitièmes, mais qui, à la fin de la compète, ne l'ont pas remporté.
D'accord.
D'accord ?
Oula.
Non, bah non, quand même. Ça y est, est-ce que pour l'intitulé, c'est bon pour tout le monde ?
Ouais.
Allez, Djibril, vous commencez.
Je commence ?
Oui.
L'Ajax ?
L'Ajax Amsterdam. Bah non, ils l'ont remporté depuis 92. Ils l'ont remporté depuis 92. Ils l'ont gagné.
Ah merde.
Oh. Eh oui. Louis, c'est au merde trop mignon.
Bon. Je vais dire le PSG quand même.
Oui, le PSG, 74 matchs. Ben oui, Jim, je vous fais un cadeau. 74 matchs joués sans la remporter. Et ils sont pas premiers.
C'est trop évident.
Ils sont deuxièmes. Jérôme.
Je dirais l'Inter.
L'Inter. Il a gagné en 2010, Jérôme. Avec José Mourinho et Samuel Eto'o.
Il n'y avait pas la télé en 2010.
Ah, il n'y avait pas la télé. Dominique Grimaud.
Atlético Madrid.
L'Atlético Madrid, oui. 52 matchs de Ligue des Champions sans la remporter, son cinquième de ce classement. Alicia.
City.
City, évidemment.
Ah ouais.
60 matchs, et ils ne l'ont pas gagné.
On était trop concentrés à jouer.
Raphaël.
On joue, on n'est pas eux, c'est des journalistes, ils ont le temps de regarder. on est sur les terrains, on n'a pas le temps.
Mais quel escroc, mais. Ouais, je vais l'envoyer sur le banc. Bon,
c'est sûr.
Allez, Raph.
Arsenal.
Arsenal, bien sûr. Arsenal, 83 matchs de Ligue des Champions, et ils ne l'ont pas gagné. Je précise, ça ne veut pas dire que les clubs ne l'ont pas gagné avant 92.
Oui,
on parle depuis 92. Mon cher Loïc.
Pas Tottenham.
Tottenham.
Non.
N'est pas dans ce classement. Dominique Grimaud.
Borussia.
Borussia Dortmund.
Il a gagné.
Il l'a gagné.
C'est vrai, il l'a gagné.
C'est un duel Alicia Rafou.
Alicia. Me tuer, c'est pas possible.
C'est un autre.
J'en ai plein, regarde.
5.
Benfica.
Benfica, il l'avait gagné avant, mais pas depuis 92. 46 matchs. Rafou.
Non, pas Benfica. Les clubs turcs. On l'a bien.
Allez, chut, les gars, on vous entend. Allez, Raphaël.
Je vais tenter.
5. 4. 3.
Valence.
Valence, c'est bon. 48 matchs avec des champions sans la gagner. Alishaya.
Alishaya.
Alishaya
Dubaï.
Alishaya.
Une star
au
Kansas. Bruges.
Non.
Ouais. Bruges n'a pas joué assez de matchs. Qui a commencé ce Jeep ? Donc, Raphaël, il faut valider la victoire. Un indice ?
Vous les connaissez tous.
Vous les connaissez tous.
Ah, bah oui.
5, 4,
3,
2.
Je vais tenter la Corogne.
La Corogne ?
Non.
Eh non, il n'y a pas de la Corogne. Dom,
Porto.
Porto. Monaco, 14e, 30 matchs. Restez en France.
Lyon.
Lyon,
j'avais écrit Lyon.
Galatasaray, non.
J'ai
écrit en Grèce, mais c'est pas la vôtre.
L'Olympiakos.
40 matchs. Il y a en Italie actuellement avec José Mourinho. Ouais, la AS Roma, 36 matchs. Aux Pays-Bas, si c'est pas l'Ajax, c'est. Eh oui, le PSV, 33. En Ukraine.
Dynamo
Kiev, 31 matchs. Et en Allemagne, non, le Bayern, Leverkusen. Vous auriez pu le finir en vrai.
Non, mais c'est
37. Et il en manque un.
Il manque
le Stuttgart Donetsk. On va y aller. On est à la bourre. Voilà, ça c'est fait. Dans un instant, la petite lucarne, le conseil de classe, suite du débrief du PSG. Et j'espère qu'ils seront meilleurs dans le deuxième jeu parce que là, c'était pas dingue. Allez, à tout de suite. Non. Nous sommes de retour dans l'équipe de Reg. Merci d'être là avec Alicia, avec Dominique, avec Jérôme, avec Loïc, avec Djibril, avec Raphaël. On poursuit notre route ce soir un petit peu plus tard que d'habitude. On est quasiment jusqu'à 8h-10. On va débriefer la défaite du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, on aura le conseil de classe dans un instant. On parlera de Marco Verratti, on parlera de Lionel Messi, d'Mbappé, de Galtier, évidemment. On aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. On rejouera, mais tout de suite, voici le zap préparé par Romain Aran.
Sommer qui a fini. Vitinha, Vitinha, il faut la mettre, Vitinha celle-ci, c'est une offrande que le Bayern a donnée au Paris Saint-Germain.
No, nothing fluky about that.
Trey Murphy.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il est monté haut, il est monté fort pour écraser ce dunk.
Sundquist plays it back into his own zone. Middleton to Spurgeon. And Middleton finds Sundquist back in the slot. Foligno scores! A snipe from Marcus Foligno off the feed from Sundquist.
Oui, bien joué, Verratti, attention, ça vient, et il a été pressé, Müller, Goretzka, pas de faute, Kimmich, j'en suis pas, je peux monter, pas de faute au départ, sur Marco Verratti, c'est encore Eric-Maxime Choupo-Moting qui plonge le Paris Saint-Germain dans son cauchemar.
Victor Lafay qui emmène. Yates qui va lancer, et c'est vrai qu'Alaphilippe est également bien placé dans la roue de Roglic qui va porter son effort maintenant.
C'est Yates qui enclenche Alaphilippe en troisième position derrière Primoz Roglic. Roglic pour basculer la victoire de Primoz Roglic, deuxième place pour jouer Alaphilippe.
Tottenham a presque une occasion inespérée, la tête d'Harry Kane et l'arrêt de Mike Maignan. Voilà comment se mettre en danger en supériorité numérique.
Quelle parade de Mike Maignan.
Simon qui est là, la performance de Julia Simon qui parvient encore à marquer des points si importants pour le Gros Globe. Quatrième, ça c'est un beau résultat.
Il va pas être très très long, hein. Il ne reste que deux minutes. Paris Lee s'est raté. Bonitka et Liokomo
qui a joué au volleyball. Je pense qu'on a entendu le bruit du ballon jusqu'à Paris.
De très très loin. Olaf Koy. Pedersen avec Olaf Koy en deuxième position qui fait son effort maintenant. Il y a Matteo Trentin derrière. Pour l'instant, tout le monde est battu. Plein centre, c'est Olaf Koy. Et c'est Olaf Koy qui va s'imposer devant Matt Pedersen et Tim Merlier normalement.
That's that mean stuff, the Memphis. He just.
Ça y est, c'est fini le Paris Saint-Germain. Champion éliminé sans aucune contestation possible sur l'ensemble des deux matchs par le Bayern Munich. C'est une nouvelle désillusion pour le PSG qui sort prématurément de la compétition.
Bénédicte Doll en tête. Dernier tir pour lui.
On salue le jeu de mots final, Bénédicte Sallois, bien joué Romain. Pierre-Antoine Damcourt, venez, c'est la première partie de la petite lucarne. Alors on précise, on a un horaire inhabituel qu'on a commencé plus tard avec
Diathlon. Oui, donc tout à l'heure, ce
sera 19h15.
19h15, d'accord, ça va plus tard. Comment ça va les amis? Ça va? Je voulais juste mettre un 10 pour le risque vestimentaire pris par Loïc Tanzi. Je trouve que c'est du panache.
Merci.
Non mais il faut y aller.
J'ai dit que c'était Parker Lewis tout à l'heure.
Évidemment. C'est pour ça qu'il y a un 10. Il n'y a pas que Pierre Boubi et Djibril Cissé qui peuvent tenter des trucs.
Moi j'aime bien. Djibril, vous validez ou pas?
Ah ben fort.
Merci.
Voilà, moi j'ai mis un 10, c'est pour ça. En tout cas, est-ce que vous avez...
Toi tu te moques.
Non, peut-être. Sinon j'aurais pris un 0. J'ai vu ce triste spectacle hier à Munich. C'était pas beau à voir. On était à la limite, vraiment à la limite du film d'horreur. C'était terrible. Oh là là. Oh, quelle horreur. Non, mais il y a des enfants qui regardent la télé. On peut couper. Non, arrêtez. On peut couper cette mèche, hein, s'il vous plaît.
Un petit peu peur, il avait froid.
Il était plein face au vent. Voilà, il n'a pas arrêté. On aurait pu mettre une heure de rush. Franchement, la mèche a beaucoup souffert. Ouais, évidemment. Dans un instant, il y aura le top titre de la semaine, les meilleurs jeux de mots. Mais on en avait un petit peu trop. Donc, on s'est fait un petit apéritif chez le déstockage. On y va. Vas-y. Qu'est-ce qu'on avait cette semaine? On avait un petit, regardez, hommage à Juste Fontaine. Qu'à Juste Fontaine de Jouvence.
Très bon. Ça va.
C'est l'union. On a aussi de quoi être vert. Alors l'équipe, ouais, de quoi être vert, un peu fait, un peu trop fait. Le progrès avec des verts incassables.
Oui,
ouais.
On a compris.
Foot nous a offert une petite danse de la joie avec Brice Samba, la danse de la joie. Ouais. Et quand Chema Marquez, le handballeur espagnol, est en forme, ça nous donne, puisque Libère est chaud. Bien. Et celui-là, il était à la limite de rentrer dans le top 5, qu'on retrouvera tout à l'heure. On s'intéresse
aussi. Ça veut dire qu'il va être bien.
Ouais, aux supporters évidemment du Paris Saint-Germain qui se sont sentis bizarres ce matin.
Merci beaucoup Pierre-Antoine, à tout à l'heure, 19h15 pour la petite lucarne de ce soir. Il est 18h40, voici tout de suite votre conseil de classe. Alors le conseil de classe, vous attribuez des notations, des appréciations même pour être tout à fait précis, les notations c'est chez Mémé, sur les joueurs et leurs prestations, et on commence par Marco Verratti.
Et Marco Verratti qui est sur les deux buts encaissés par le Paris Saint-Germain lors de la défaite de 0 face au Bayern. Tout d'abord là avec Müller qui va au pressing sur lui, et puis derrière Goretzka qui va hériter du ballon, Choupo-Moting qui va marquer. Il perd le ballon aussi aux abords de la surface de réparation du Bayern Munich. Cancelo va le récupérer, vous connaissez la suite, ça va aller jusqu'à Serge Gnabry qui va marquer le deuxième but du Bayern Munich. Donc il est sur les deux buts encaissés par le Paris Saint-Germain. Marco Verratti, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons dans le match. 128 ballons touchés, 11 ballons perdus et la note de 2 sur 10 dans le journal L'Équipe.
2 sur 10. Regardons vos appréciations. Vous m'avez dit pour Jérôme, fonctionnaire. Pour Dominique, hors sujet. Pour Djibril, décevant. Et Loïc, un cauchemar. Loïc, vous y étiez hier. Franchement, Marco Verratti, s'il met pas de but, s'il fait pas de passe et qu'il arrive plus à réussir ses sorties devant la surface de réparation, qu'est-ce qui se passe?
Franchement, il fait une première demi-heure où moi je pense qu'il est parti sur un énorme match, parce que je crois qu'il touche presque 70 ballons sur sa première demi-heure. Il a une activité qui est top, et puis après je sais pas ce qui se passe. Il sombre complètement. Il revient en deuxième période, il perd tous ses ballons et quasiment dans des zones dangereuses. Il galère et ce premier but après ça le tue parce que
qui est pour vous le responsable, parce qu'on a vu on en parlera de Galtier dans un instant, mais franchement
c'est lui, parce que ça
sur El Shaddai Bichabou,
il le sent venir, il prend un coup sur le mollet, ouais. Il doit tomber déjà, et à partir du moment où il prend ce petit coup sur le mollet, il tombe. Pour moi l'arbitre c'est faute. S'il tombe directement, il a l'expérience, il sait très bien, c'est qu'à chaque fois qu'il est touché, il tombe en plus. Là, il veut pas tomber.
Là, il est tombé deux fois, il a pas sifflé.
Il essaye de revenir, oui, mais le premier coup. Il tombe la deuxième fois. Il tombe après coup. Et c'est là où il fait l'erreur pour moi de sur cette faute. Après, c'est symbolique de ce club, c'est-à-dire que c'est des joueurs comme ça qui sont là depuis 10 ans maintenant et qui n'ont connu que la défaite avec le Paris Saint-Germain, comme Marquinhos.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'en séparent, ils vont le prolonger.
Même pour lui, je pense qu'il faut qu'il parte.
Mais c'est ça qui est.
Pardon. Il faut qu'il parte.
Il m'a échappé.
Même pour lui, hein. Mais c'est même pas que pour le PSG. Même pour lui, pour sa carrière.
Il faut 30 ans, Marco Verratti, on l'avait arrivé à 19 ans au PSG.
Oui, en juillet 2012, mais tu as raison de le souligner, il est associé, comme Marquinhos d'ailleurs, qui est arrivé une saison après à tous les échecs européens. Et on veut les prolonger tous les deux. Mais c'est une aberration. Ils sont dans un confort matériel absolu, ces deux mecs. Et pour eux, ils mériteraient peut-être de changer de club, d'atmosphère.
Vous dire que ce serait gagnant-gagnant pour le PSG et pour eux?
Mais évidemment, ça me paraît tellement évident.
Le problème qu'il y a, c'est que chaque débat qu'on a sur Marco Verratti, on dit, il y a un PSG avec Verratti, un PSG sans Verratti.
Bah oui.
Alors déjà, c'est la moitié du temps, parce que depuis 10 ans, il joue un match sur deux, en moyenne, je ne l'ai pas inventé. Et que maintenant, c'est des moitiés de match, ou des tiers de match. Donc ça devient un problème, non? Enfin, je ne sais pas. S'il est bon la moitié d'un match et qu'il joue un match sur deux et qu'on le prolonge, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je vais vous m'arrêter si je me trompe. Avant, il était bon un match sur deux, mais tout le match. Maintenant, c'est un match sur deux, c'est une demi-heure.
Aussi.
Ah ben oui, non, mais ça. Alors, c'est un problème.
Mais la veille, en conférence de presse, il a dit
je suis pas un jugement de valeur.
Il l'est pas.
C'est pas un jugement de valeur, c'est
90 minutes.
Et même lui, tu sens bien là qu'il est plus appliqué comme avant. Bah, tu le sens. Alors, oui,
il
ne
tient pas là. Une demi-heure, il est.
Je vois Djibril qui vous écoute, il fait des petits sourires. Ça veut dire quoi?
Non, pas du tout. C'est le but. Moi, le but, je trouve pas que ce soit. Ah totalement oui. Sa faute.
C'est plus ce Bichabou, le défenseur.
Vous êtes plutôt dans la team Galtier, dont on parlera dans un instant.
Non, je suis dans la team. C'est la faute pour moi, c'est 50-50. Le petit, il a 17 ans. Ok.
Verratti te demande le ballon, tu lui donnes. Oui. Point à la ligne. Donc, il a fait son appel. Pour moi, il est dans une mauvaise zone. Pour moi, il ne doit pas la demander, là. Mais et le PSG, c'est plein de quoi au match aller ? De ne pas avoir quoi ?
Profondeur.
Tu as Mbappé devant. Mmh. Allonge le long de la ligne, le jeune. Mets-moi un long sac. C'était mon jeu, donc je peux vous en parler. C'est ce que je faisais. Moi, mes entraîneurs, c'était quand on est en galère le long de la ligne, long de la ligne sur Djibril, point de corner, il va courir. Pour moi, c'est la faute aux deux. Verratti n'a pas il est dans la surface.
Oui, mais parce que traditionnellement, quand il a ce genre de ballon, 99 fois sur 100, il s'en sort bien. C'est son point fort.
Pas dans cette zone-là.
Mais même dans cette zone, moi, je
me sens. Ouais, mais c'est dangereux. Là, c'est dangereux.
En plus, je trouve qu'il a même. Enfin, vous êtes sur un terrain, mais je trouve qu'il a même un temps d'avance. Je trouve qu'il n'était pas pressé tout de suite.
Tu peux glisser.
Il a un tout petit peu le temps.
Il peut t'arriver un truc. Tu es dans la surface. Là, en plus, c'est ce que le PSG a pleuré au match aller. On n'avait pas de profondeur. Là, tu l'as. Long de ligne, point de corner. Et il va aller chercher
la phrase de Galtier, c'est on aurait dû jouer long sur l'action.
Bah, je voudrais qu'on le garde.
Ah, pardon.
Parce qu'on a Galtier dans le conseil de classe.
Ah, voilà, mais sans être dur.
Okay, si on peut le garder pour 2-3 minutes, qu'on reste sur la prestation de Verratti. Parce que...
On l'a teasé un peu. Quoi.
Ouais. Non, mais.
Sur le deuxième but. Je suis plus dur sur le deuxième but que le premier. Il prend pas l'info en fait. Kimmich, il arrive, il fait 20-30 mètres. Donc, ou personne lui parle, ou lui, il prend pas les infos. Tu dois le voir qu'il arrive en balle. Et là, protège-toi. Si tu vois que t'es galère, fais le dos rond, il te touche, tu tombes et tu gagnes la faute.
Non, mais ce que dit Dom, j'entends ce que. Mais si même, Loïc, vous qui suivez le PSG, je reviens vers vous, si même Verratti, qui est censé être une des valeurs les plus sûres, quand il joue, je reprends du coup Jérôme, se met à faire ça dans des matchs clés, il y a un souci quand même.
C'est des joueurs qui, mentalement, tant que tout se passe bien dans un match comme ça, ils vont être au top. Ça va bien se passer.
Mais regardez l'an dernier, c'était pareil pendant un match ennemi.
Il y a un petit grain de sable qui va venir se mettre dans un match là comme ça. Ils vont faire une petite passe anodine, ils vont louper. Et dès que le doute va venir s'installer, c'est toutes les années d'avant qui reviennent.
Mais alors pourquoi prolonger un joueur qui ne peut pas être fiable quand il y a un doute
c'est, pour moi, l'erreur du club, et c'est son erreur de rester aussi, les deux. Pour moi, ils sont fautifs les deux parce qu'il aurait tellement à gagner à aller dans un autre club, à se remettre en question, à essayer lui-même de montrer qu'il peut gagner ailleurs.
La grosse différence que Verratti ou un autre, ils font une grosse erreur à la demi-heure de jeu. Le PSG ne marque pas. On fait une grosse erreur, il marque. Ah. Mais tout est là.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Parce que ce qui est arrivé à Sommer, c'est arrivé à Donnarumma l'an dernier. Là, ça arrive à Verratti. Et c'est pas hasard. D'un moment. Bon, voilà pour Marco Verratti. 2 sur 10 dans le journal de l'équipe. C'est quand même rarissime qu'il ait 2. Mais je pense que, vu la prestation hier... C'est vous qui avez noté, vous avez participé au pôle de notation. Hein.
Avant la deuxième erreur.
Ouais. Alicia,
le mot de la fin sur Marco Verratti avec la presse italienne qui réagit sur le cas du hibou et notamment sur le traitement des médias français sur l'italien. Les médias français dégomment le Paris Saint-Germain et Verratti qui finissent au coin, titre aujourd'hui la Gazzetta dello Sport. Oui. Lui spécifiquement, il n'est pas la cible de critique dans la presse italienne, c'est plutôt la presse italienne qui réagit à comment nous on a critiqué Marco Verratti. Mais bon, ça peut se comprendre d'un côté. Hein.
Franchement,
c'est un des joueurs qui était le plus protégé depuis 10 ans au PSG, malgré tout ce
passé. Ici, on est souvent très tendre avec Marco Verratti.
Ah oui, attendez, c'est moins
compliqué. Parce que c'est un super joueur, quand même.
Non, mais
au-delà de ça.
Mais c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais là, hier, quand vous faites ça en 8e de finale, qu'il y a 2 ballons perdus, que ça fait 2 buts.
Ah bah non, mais tu aurais dû le mettre 8, toi, t'es con, toi aussi.
Non, mais.
Aussi, toi, on se fait pourrir.
C'est votre faute, Loïc, je suis à 2 doigts du banc.
Mais 8-7.
On continue avec quelqu'un qui a été mal noté hier soir, c'est Lionel Messi. 3.
Il a eu 3 sur 10 dans le journal de l'équipe à la lecture. Ce matin, même dès hier soir, pas de but, un tir cadré, 3 occasions créées, seulement 2 ballons touchés dans la surface de réparation du Bayern Munich et 19 ballons perdus. Et quand on fait le bilan de Lionel Messi dans les matchs à élimination directe avec le Paris Saint-Germain, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de stats, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe D. Et finalement, le meilleur match qu'il ait fait, c'est sans but et sans passe D. C'était lors du match retour. Il avait reçu la note de 6 sur 10.
Alors, on regarde vos appréciations là aussi, hein, c'est sévère, mais c'est sans doute juste. Stop! Pour Jérôme, voilà, il se fait un stop ou encore à lui tout seul, c'est un stop. En reconversion carrément pour Dominique, c'est insuffisant pour Djibril et trop décevant pour Loïc. En reconversion.
Oui, je considère que, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser, Dieu sait que on a adoré ce joueur, mais je considère qu'il a pris sa retraite depuis quelques semaines, qu'il a gagné ce qu'il n'avait jamais gagné, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Il s'est préparé, Dieu sait qu'il a fait, comme Neymar d'ailleurs, une excellente première partie de saison, mais depuis le retour d'Argentine, il n'y est plus. Il n'y est plus, c'est pour ça que je dis qu'il est en reconversion.
C'était bien à Marseille, c'est pour ça qu'il y avait de l'espoir.
Une espèce d'ambassadeur du foot qu'on voit aujourd'hui à Paris, qui touche encore énormément d'argent, tant mieux pour lui, qu'on verra peut-être demain à Miami, ou qu'on verra peut-être comme Ronaldo en Arabie Saoudite, ou qu'on reverra à Barcelone. Mais bon,
je pense pas chez lui en Argentine.
Ou chez lui en Argentine, mais je crois que le grand Messi, on ne le reverra plus, ce qui est normal et naturel.
C'est vrai qu'il a été insuffisant, Djibril Cissé, hier.
Moi, c'est mon joueur. J'adore ce joueur. Et ça me fait mal de le voir absent comme ça, fantomatique. Il erre sur le terrain, il est limite perdu. Ça me fait mal au cœur. Mais à part dire.
Mais est-ce qu'il aurait pu faire plus lui hier, indépendamment déjà, du joueur On attend quand même qu'un gars comme ça fasse la différence.
Être un peu plus disponible, un peu courir déjà un peu plus, tenter. Même si c'est tenter, tu perds. Ben au moins tu essayes quoi.
Il est broyé.
Il a pas.
Kimmich, Goretzka lui font l'enfer au milieu. Ouais. L'enfer.
Stop. Ça veut dire que là aujourd'hui, s'il y a changement, on en parlera tout à l'heure. Fini.
C'est pas un gros mot. Ils sont en négociation pour le prolonger ou pas,
ouais. Ça traîne un peu. Hein. Et Loïc n'était pas très optimiste dans le dernier article.
Pas que ça traîne, c'est que ça avance pas du tout.
Voilà, tant mieux. Ouais. Et après, évidemment, on est tous... à chaque fois, on lit... Évidemment qu'on est admiratif de toute sa carrière, machin. Une fois qu'on a dit ça, voilà, maintenant stop, c'est plus le projet, c'est plus le débat. On a vendu les maillots, on a remboursé quasiment le salaire en maillot, en machin, en renommée mondiale. La France entière sait que Messi est à Paris. Ok, on a compris, c'est parfait, 2 ans, parfait, maintenant stop. C'est tout.
C'est dingue d'en arriver à dire ça. Il y a Lionel Messi.
C'est pas un gros mot.
Il y a Lionel Messi qui joue avec Mbappé et Neymar et on en est à dire.
C'est pas le Messi, là, on voit bien que c'est plus le Messi.
Non mais, oui.
Grands jours.
C'est pas nous qui l'avons signé.
L'Argentine, on le voit avec le PSG. Et puis là, on peut pas dire c'est la faute à Neymar parce que Neymar est dans sa zone de jeu. Neymar est pas là. Là hier, il était plutôt tranquille en position de numéro 10. Il a fait les efforts un petit peu quand même, notamment dans le replacement, un petit peu de pressing. Donc c'était pas si mal sur ça. Mais en fait, dès qu'il a eu le ballon, quasiment tout perdu, tous ses ballons.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler du changement tout à l'heure. Il y a pas longtemps, disait Christophe Galtier, disait plus équilibré sans Neymar. Ouais. Ça veut dire que comme Neymar a un contrat en béton, qu'il a dit je reviens l'année prochaine, que on a tous compris qu'à 3 c'était pas possible. Ouais. Déjà qu'à 2 c'est compliqué, alors à 3 c'est pas possible. Ça veut dire que c'est terminé.
C'est mieux Neymar Mbappé que Messi Mbappé aujourd'hui au PSG, parce que Neymar fait plus d'efforts.
Pourtant, je croyais qu'après la semaine passée à Marseille et tout, c'était mieux comme ça.
Jamais. Moi, sur Neymar, je pense que c'est celui qui donne le plus de ballons à Mbappé, qui lui fait le plus de passes décisives, et ils ont une relation technique
qui défend plus.
Il a une relation technique avec Mbappé qui est le cœur du projet, qui est plus importante que celle avec Messi. Parce qu'aujourd'hui, Messi, il est plus dans la forme de sa carrière.
Et votre sentiment, Loïc, vous êtes un suiveur très près du PSG, vous êtes souvent le mieux informé. On a la chance de vous avoir sur ce plateau. Je ne vous demande pas l'info si vous ne l'avez pas. Votre sentiment, quand je vous ai vu sur le dernier article, on en a parlé tous les deux, on ne va pas raconter d'autres vies, mais c'est expliqué sur ça. C'est quoi? C'est du 50-50 sur une prolongation ou c'est plutôt vers un départ?
Plus ça traîne, moins c'est bon signe pour le PSG. Il a dit oui pour rester pendant la Coupe du Monde. Mais si depuis, il y a eu un seul rendez-vous, et sur le rendez-vous, ils n'ont pas avancé du tout. C'est-à-dire ni salaire, ni durée de contrat, ni sur le fait de qu'est-ce qu'on va faire de toi le projet l'année prochaine au PSG. Le PSG, ils ne sont pas prêts à faire tous les sacrifices pour Messi, parce qu'ils ont besoin d'argent cet été.
Ce n'est pas Messi à tout prix.
Non, parce qu'il faut sur le marché des transferts. Ils ont compris qu'il faut se renforcer là, l'été prochain. Et si Messi reste avec Neymar et Mbappé, c'est impossible.
S'ils sont sur le Messi à tout prix, tout ce qu'on fait depuis une heure, ça sert plus. Ça sert à rien. Ils ont compris.
Ils sont prêts à le faire rester.
Ça, c'est un match qui peut faire évoluer le futur de Messi.
Bah, évidemment.
Pour le PSG, côté PSG,
même pour lui.
Oui, mais lui.
On reparlera de tout ça parce que évidemment, ça va être un de nos feuilletons de fin d'année, le mercato, puisqu'on n'aura plus de quart avec le PSG. Mbappé. Alors, Mbappé, on l'attendait évidemment trop, sans doute. On l'a pas vu.
On l'a pas beaucoup vu. Kylian Mbappé, qui a eu comme Messi la note de 3/10 dans le journal L'Équipe. Un tir cadré, 0 occasion créée, 0 duel gagné hier par Kylian Mbappé. Puis vous avez un petit peu parlé de cette connexion qu'on n'a pas vue hier entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain, Mbappé, Messi. Très peu de passes échangées. On en avait vu beaucoup plus lors du classique face à l'Olympique de Marseille. Mbappé, donc, on a peu vu, bien pris par la défense du Bayern Munich, bien muselé. Le plan de Julian Nagelsmann a marché. Écoutez l'entraîneur du Bayern.
On avait pris la décision de défendre avec une ligne de 3 défenseurs. On a toujours essayé d'avoir un surnombre. En deuxième mi-temps, on a vraiment su canaliser Mbappé. On l'a très bien fait. Depuis le banc, on l'a vu s'énerver de devoir défendre, notamment face à Kingsley Coman.
Voilà pour Mbappé. Les avis sont, vous allez voir, surprenants. J'ai humain pour Jérôme, si seul pour Dominique, trop seul pour Djibril et inattendu pour Loïc. C'est quoi inattendu ?
Mais inattendu parce qu'il n'avait pas fait le match qu'on attendait de lui. Tout le monde est très gentil avec lui quand même, c'est terrible.
Ah non, moi j'ai jamais
été. Il a eu trois quand même, humain gentil.
Humain, c'est-à-dire qu'à chaque fois, déjà s'il n'est pas là, t'es pas champion de France. Ah, déjà.
Non, mais vraiment. on parle pas de ce match-là.
Tous les matchs où Paris est bidon, il te sauve. Ah, mais hier soir, t'as pas sauvé.
On parle pas de ces matchs-là.
Ah, bah oui, mais
c'est le. Moi, je veux bien qu'on parle de ces matchs, et c'est exceptionnel.
Non, mais quand vous dites ça, c'est que de défendre son image.
Pardon.
C'est ces matchs-là, il doit être là.
On n'est pas amis. J'ai aucun intérêt à le défendre. On est dithyrambique ici à chaque fois sur lui quand on le peut. Hier, il a été mauvais.
Mais quelle différence avec Messi alors hier? Pourquoi on est si dur avec Messi et pas lui avec lui?
Ben il dépend de Messi. Messi n'est pas bon, Mbappé peut pas être bon.
Ah, donc on s'est totalement trompé sur l'approche du match alors. Dans ce cas-là, on a trop mis en avant Mbappé sur l'approche du match.
Et pas assez Messi. Mbappé, il a besoin ou d'un Neymar en jambe ou d'un Messi pour le régaler quand même. C'est ce qui s'est passé sur les derniers.
On lui trouve quand même des excuses sur des matchs comme ça où hier il a pas été bon.
On n'a pas dit.
Et le PSG. Il disait avant le match, il va tout changer. Vous allez voir par rapport au match aller. Le Bayern, il craigne ce joueur.
C'est vrai qu'on le disait, mais le Bayern l'a dit lui-même.
Oui. Il a rien changé. Mais on sait ce qu'il a rien changé.
Ça part d'une incompréhension. Moi, je dis humain. C'est pas pour le défendre. C'est que si cette saison t'as pas Mbappé. Oui. T'as rien.
Oui, bah hier tu l'as et tu n'as pas avancé non plus.
Oui, pour une fois. Oui.
Dominique, je vous sens désabusé là.
Je suis pas désabusé. Je pense que les médias, dont nous, sommes en grande partie responsables. Je regardais la presse hier matin. Avec Mbappé, tout est possible. Grâce à Mbappé, le PSG va se qualifier. C'est juste n'importe quoi parce que dans l'histoire du foot, pas un joueur, quel qu'il soit. Les plus grands, que ce soit Di Stefano, Cruyff, Platini, Ronaldo, Maradona, un seul joueur ne peut pas tirer une équipe. C'est juste impossible. Et donc, on est en partie responsable de cette Mbappé mania. Voilà, je crois qu'il faut que ça cesse.
Après, il l'a provoqué parce qu'il marque des buts comme il le fait à Marseille sans lui.
C'est le meilleur joueur.
Incroyable.
Mais hier, il est juste impuissant. Impuissant parce qu'il est victime d'un collectif qui ne fonctionne pas. Il est victime d'une équipe qui physiquement se fait bouffer littéralement par l'adversaire. Il est victime de. Il gagne pas.
Après, le truc c'est qu'il rate deux contrôles. Il y a quand même.
Les stats, elles sont terribles.
Franchement, je dois pas rentrer. Mais vous avez raison de dire ce que vous dites. Vous avez raison. Il y a quand même deux actions qui auraient dû à minima être négociées.
Il n'a pas été bon hier. Il était mauvais hier.
Et voilà, il n'a pas été mauvais, il a été inexistant. Il n'est jamais mauvais, Mbappé. C'est pas un qualificatif qu'on peut associer à Mbappé.
Je vous trouve dur. Franchement, nous, les attaquants, on dépend.
Bah oui.
On dépend du 10. Moi, Mbappé, je regarde pas la télé, mais je l'ai jamais vu prendre le ballon du milieu de terrain, aller dribbler tout le monde et aller marquer seul.
Contre Lille.
Une fois, deux fois dans la saison, c'est pas son rôle majeur. Voilà. C'est des appels, ballon en profondeur, il prend tout le monde de vitesse, frappe. Mais s'il a pas de ballon, les gars, il peut pas, c'est pas possible.
Une autre rengaine, là aussi, l'appel du pied de la presse espagnole envers Kylian Mbappé. Le jeu n'est pas non plus entre Kylian Mbappé et la presse madrilène notamment. Regardez la une de Marca du jour. Si tu veux gagner la Ligue 1 et champion, tu sais, point de suspension sous-entendu, tes valises et tu traverses les Pyrénées vite fait, bien fait pour aller rejoindre le Real. Marca qui reprend les propos de Mbappé sur son futur. On les rappelle, mon objectif est de gagner le championnat et après... On verra Mbappé qu'on retrouve aussi en une de Mundo Deportivo. Mundo Deportivo qui évoque le fiasco parisien. Et voilà, encore un appel du pied de la presse espagnole.
Oh, écoutez, ça nous fera des feuilletons. Ça sera très bien. Et puis on a l'autre dossier.
Il a dit que c'était pas lié.
On a commencé à comprendre.
Lié au fait que le PSG soit capable encore une fois de lui montrer qu'il est dans la bonne équipe pour gagner.
Disons qu'on a bien compris que le mercato à venir serait plus important que l'élimination en 8e.
Exactement.
Christophe Galtier.
Vous l'avez mieux dit que moi, c'est beau.
Bah, je vous en prie. C'est peut-être pour mon prénom dans le.
Christophe Galtier.
Christophe Galtier, on va faire le bilan de sa première campagne européenne avec le Paris Saint-Germain, donc dans cette Ligue des Champions. Bah, c'est 2 défaites face au Bayern, c'est 2 nuls face à Benfica, et c'est une note moyenne, puisqu'on note aussi les entraîneurs dans le journal de l'équipe, de 3 sur 10 face au Bayern Munich. On en vient, on en a parlé pour Marco Verratti, à cette fameuse réaction de Christophe Galtier après la rencontre sur l'erreur commise sur le premier but, où il a plutôt ciblé, eh bien, l'erreur de son jeune défenseur Bichabou. Écoutez-le.
On prend finalement le but sur la même situation et que nous n'avons pas pu concrétiser. Évidemment, le Bayern l'a concrétisé. On fait une erreur à la fois de jeunesse et d'analyse du jeu à ce moment-là.
Moi, je ne vous cache pas. Hier, j'ai écouté ça. Je vous regardais, Jérôme, l'équipe du soir. Ça m'a choqué.
Ouais, moi aussi.
Voilà, le mot, et tout ce qui vaut, c'est un verbe, c'est qu'un match de foot. Parce que ça m'a choqué. Donc, on regarde vos appréciations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour Jérôme, c'est un chef sans orchestre. Pour Dominique, il est dans l'attente. Il est impuissant pour Djibril et sans solution pour Loïc. Parce que, on peut parler de la façon dont il fait ses changements, de l'effectif qu'il a, mais je trouve quand même ça dingue de mettre ce but-là tout de suite, là, dans la seconde. Alors, 99% des gens disent que c'est sans doute Marco Verratti, de mettre ça sur El Shaarawy Bichabou, c'est fou.
Je prends une seconde, les gars. Et même s'il le pense. Parce que finalement,
il va bousiller, là.
On en a parlé tout à l'heure. Oui. Djibril a une opinion sur le but, j'en ai une autre. Et c'était super intéressant d'en parler. Mais lui, pas comme nous, hein. Nous, on est observateurs. Mais lui, il est coach du PSG. Il doit protéger ses joueurs et surtout ses jeunes joueurs.
Gamin de 17 ans, qui a déjà eu souffert à Monaco.
Mais même s'il le pense, nous, on peut se le dire, nous. On s'en fout. On va me le dire là, on s'en fout. Mais lui, il n'a pas le droit de le dire. Parce que si c'est Ramos qui fait la même passe, je vous parie tout ce que vous voulez qu'il ne le dit pas.
Non. Évidemment. Voilà.
Et même s'il le pense, il doit noyer le poisson. Il sait très bien le faire parfois, Christophe. Mais il n'a pas le droit de mettre le gamin en pâture comme ça. Voilà. Moi, si je suis désolé, ça, je suis...
Non, mais il le met en pâture. Il le jette en pâture, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi? Parce que derrière, il a son effectif et s'est blessé le calendrier. Il est dans sa ligne de défense. C'est la troisième pièce du triangle.
Il a besoin de lui, là, encore, hein, parce qu'il y a grand monde
derrière. Oui, non, mais sauf qu'il le dit, mais parce qu'en appuyant sur lui, il montre qu'il n'a pas Kimpembe, que Marquinhos est sorti, et nous qu'il est sorti. C'est évident.
Mais il a besoin de lui, hein.
Oui, non, mais moi, je vous dis pourquoi il le dit.
Oui.
Dominique, vous m'avez dit dans l'attente. Alors, je voudrais préciser dans l'attente que Emery a survécu à un non-titre de champion et à la remontada. Et Tourelle a survécu à United, la défaite cruelle.
Dans l'attente, au sens dans l'attente du chèque, parce que moi, je ne vois pas comment.
Oui, mais c'est pour ça que je disais ça.
Mais évidemment, je ne vois pas comment il pourrait résister.
Comme je vous le dis, Emery et Tourelle ont survécu.
Oui, ont survécu, mais il est dans la situation de ses prédécesseurs, sauf qu'il n'a pas l'aura de ses prédécesseurs, sauf qu'il n'a pas le palmarès de ses prédécesseurs, sauf que. Moi, j'ai toujours pensé... J'aime bien le mec. Je le dis très honnêtement. Je crois que le costume est sans doute trop grand pour lui. Il n'est pas... À mon sens, il n'est pas fait pour le PSG. Moi, j'ai hâte de le revoir diriger à son niveau.
C'est dur, parce que vous y allez fort.
Non. Oui,
vous allez loin.
Mais je crois que... Voilà, mais le problème de Galtier, ça a été le problème des autres, ceux qui ont précédé Galtier. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun vrai pouvoir sur les joueurs, en tout cas sur les stars. Mais aucun.
On se demandera dans le changement tout à l'heure s'il y a un an deux et Campos un recrutement, s'il y a parce que là Dominique nous l'a licencié, enfin attendu du chèque en tout cas. Je suis pas sûr que Loïc pense ça sur l'avenir à suivre.
Non.
Vous Djibril, voilà, vous m'avez dit qu'il avait été impuissant. Bah, c'est quand même au coach d'influer sur le cours d'un match quand même.
Non.
Pourquoi faire rentrer Moukele s'il y a un doute, par exemple?
Mais un coach, il met ses joueurs.
Bah oui,
et puis, il est dépendant de ce que les joueurs donnent.
Ah, c'est les joueurs, bien sûr.
Mais il peut donner le tempo, quand même.
Mais non, c'est pas vrai. C'est, non.
Hier, à part les remplaçants, qu'est-ce qu'il peut faire?
Il peut rien faire. Il est dépendant des joueurs, du rendement des joueurs.
Ce qu'il peut faire de mieux, c'est avant le match, peut-être. Parce qu'il ne met pas Marquinhos, il ne met pas Moukele, il joue à 4.
C'est ça ce que je vous ai dit.
Il est obligé de prendre le risque.
Qu'il n'a pas fait, il n'a pas choisi avant le match. Dossier Marquinhos, dossier machin.
Après moi, tout le match ça m'a trotté Hakimi. Après il a pas d'autre choix sûrement.
Pas 100% non plus. Ouais.
Il est pas 100%. Il a son histoire au-dessus de la tête. Il peut pas être à 100% dans un match. C'est pas possible.
Le problème c'est que Moukele est pas à 40%. Donc il a plus de piston, il a plus de 3-5-2 dans sa carrière.
Après je me dis voilà, il est obligé de tenter. Marquinhos il était obligé de le tenter. Tu joues ta qualif là.
On en revient à la phrase d'Mbappé qui est notre maximum.
Et t'as pas ça.
Et on termine avec un Français qui a brillé hier. C'est ou pas Mécano, Raphaël?
Oui exactement, qui a reçu 8 sur 10 dans le journal de l'équipe, l'une des meilleures notes. Un seul duel perdu sur les 6 qu'il a disputé. 100% de tacles réussis, 0 faute. On va écouter Julian Nagelsmann qui est revenu sur la prestation d'Upamecano qui pour lui est l'un des meilleurs défenseurs à son poste. Écoutez-le.
Pour moi, Upamecano est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Lorsqu'il se concentre sur les choses simples, il est exceptionnel. À la Coupe du Monde, il a été sensationnel. Aujourd'hui, il a également été très intelligent. Il a joué à merveille, même avec le ballon. Il a trouvé beaucoup de solutions simples.
Oui, d'ailleurs, Upamecano qui confirme sa montée en puissance depuis la Coupe du Monde. Après une première saison compliquée au Bayern, ça va beaucoup mieux pour lui. Des débuts compliqués aussi avec les Bleus. C'est plus le même aujourd'hui. Il est devenu patron de la défense bavaroise. Deschamps en a fait un titulaire au Qatar. Et regardez ce qu'il déclare avec beaucoup d'humilité. « Je suis en forme, mais je suis encore jeune et à l'écoute. Je joue avec de grands joueurs qui me donnent des conseils, comme Thomas Müller ici ou Olivier Giroud en équipe de France. » D'ailleurs, Upamecano, on le rappelle, 24 ans et qui semble avoir de beaux jours devant lui, que ce soit en club ou en équipe de France, avec notamment la retraite de Raphaël Varane.
Regardons ce que vous avez mis comme appréciation, parce que ça va être positif dans ce conseil de classe si compliqué pour les joueurs. Monstrueux pour Jérôme Alonso, taille patron, le meilleur, grand bleu. Bon, et ben donc tout le monde est unanime, c'est l'année de Dayot Upamecano alors.
C'est une évidence que Deschamps a sans doute trouvé son patron de défense.
Avec Konaté, on serait pas mal.
Avec Konaté, avec d'autres encore.
Hein. Oui,
oui. West Fofana, il y a les Todibo, il y a beaucoup de monde derrière.
Tant mieux. Ouais.
Hein. Todibo nous arrive.
Hein. J'aurais pas aimé l'avoir, lui. Hein.
Ouais. Voilà. Donc,
sur vous, oui, en défense.
Ouais, parce qu'il est dur, il fait mal, il va vite.
Et s'il a plus de fautes de concentration.
Et d'ailleurs, ce que dit, il est en train de devenir patron en plus dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il prend la parole de plus en plus.
Ce que vient de dire Djibril, j'aimerais pas l'avoir.
Ah ouais, non.
Et qu'est-ce qu'on vient de dire? À qui prend les conseils? Aux attaquants. Mmh. Oui. Tu vois, c'est intéressant. Il prend pas conseil auprès des autres défenseurs centraux. Mmh. Il prend conseil auprès des attaquants pour l'expérience. Ça veut dire qu'il veut comprendre comment vous fonctionnez. Et là, c'est le truc au-dessus.
Voilà pour Dayot Upamecano. On jouera tout à l'heure. Il y aura la petite lucarne, le Zap, le PSG. Peut-il vraiment changer? Avec qui? Est-ce que c'est encore avec Campos? Est-ce que c'est encore avec Galtier? Est-ce que c'est encore avec Nasser Al-Khelaifi? Est-ce que c'est avec les mêmes joueurs? On en parle après le foutoir. Info essentielle du jour, comme chaque jour, et on commence avec Corinne Diacre, écartée de la sélection de l'équipe de France.
Oui, décision du COMEX de la FFF ce matin, d'écarter donc la sélectionneuse des Bleus, dont les principales joueuses ne voulaient plus. Un groupe de travail doit proposer désormais un nouveau sélectionneur. Corinne Diacre a été maintenue, je vous rappelle, en poste à bout de bras par Noël Le Graët, le président démissionnaire de la 3F, qui l'avait replongé en août 2022 jusqu'en août 2024, sans en référer personne. On va écouter Philippe Diallo, le président par intérim de la 3F, qui a expliqué les raisons de l'éviction de Corinne Diacre.
L'équipe de France n'était pas aujourd'hui au niveau de ses standards. Une rupture s'est créée et que j'ai pensé qu'il n'y avait pas de capacité à pouvoir faire un retour en arrière. À l'unanimité, ils m'ont fait une recommandation et j'ai été amené à suivre qui consiste à devoir mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France.
On en a pas mal parlé tout à l'heure, en quelques secondes, Loïc, à l'unanimité. C'est-à-dire que là, c'était fini avant même la réunion.
Non, mais c'est logique, si elle était restée sélectionneur de l'équipe de France, il y aurait eu des soucis à la Coupe du Monde et on serait parti vers une catastrophe à la Coupe du Monde avec les filles. Après, on leur redit, pour moi, le comportement des filles, ça n'a pas été le bon comportement, le bon choix de choisir de laisser la sélection comme ça. Mais à la fin, c'était sûr que Corinne Diacre ne pouvait pas continuer.
Et justement, à la Fédération Française de Football, en deuxième info, Raphaël, les adieux de Noël Le Graët.
Oui, Noël Le Graët qui a prononcé un discours devant les salariés de la 3F. Plus de 200 personnes se sont réunies dans l'auditorium de l'instance, dont Didier Deschamps et son staff, ou encore Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. L'ex-président a dit en substance qu'il avait, je cite, passé les meilleures années de sa vie à la FFF. Il a assuré qu'il allait se défendre désormais afin de laver son honneur en tentant de faire annuler notamment le rapport d'audit du ministère des Sports devant le tribunal administratif de Paris. Son discours d'une petite quinzaine de minutes s'est conclu par une standing ovation lancée par deux salariés de la 3F. Cette petite cérémonie s'est achevée par un cocktail déjeunatoire.
Et non pas quelqu'un avec une tête de poulet en train de faire au revoir, au revoir, président. Bon, terminé, Noël Le Graët, la Fédé.
Ouais, ça y est, c'est bon là.
Hein, voilà,
ouais, là, c'est fait. Bon.
Adel Bouazama, bah attendez parce qu'on a encore d'autres trucs là. Il pourrait faire l'objet de sanctions.
Évidemment. Oui, exactement. Après avoir reconnu ses propos déplacés, je vous rappelle dimanche dans le vestiaire avant le match d'Angers à Montpellier, eh bien il a choisi de quitter son poste d'entraîneur. Il risque une sanction au niveau national. C'est une possibilité, selon Hubert Fournier, qui est le directeur technique national à la 3F. La commission d'éthique de la Fédération française a pris le dossier en main. On va les laisser travailler de manière sereine pour qu'ils instruisent le dossier. Ils ont ensuite sollicité incité la commission de discipline de la Ligue, mais c'est surtout au niveau de l'éthique que ça va se jouer, car il n'y a pas eu de sanctions administratives sur lesquelles on pourrait se pencher.
Oui, c'est ça, c'est de l'éthique, c'est de la morale, quoi, tout simplement.
C'est logique.
C'est de l'éducation.
C'est la logique. C'est... Il a fait une bêtise, il va être puni pour sa bêtise, et basta.
Bon, on suivra ça aussi, non, parce que là, je ne connais pas une personne qui, pour le coup, avait un avis contraire à ce qui a été dit sur les plateaux.
C'est impossible.
Non, c'est impossible.
Vous avez on est bien d'accord.
Du foot sur les terrains. L'AC Milan qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Oui, après son match nul 0-0 contre Tottenham en huitième de finale retour, des Milanais qui avaient gagné 1-0 à l'aller, qui ont pu compter sur un Mike Maignan qui revient en grande forme. L'arrêt face à Harry Kane, vous l'avez vu à la 35e minute. L'occasion de Huberg à la 64e minute, il est solide. Mike Maignan, il détourne parfaitement le ballon. Et puis à cette occasion, à la 93e minute, la tête d'Harry Kane, il est encore là présent. Mike Maignan qui qualifie l'AC Milan pour la suite de la compétition au grand bonheur d'un certain Olivier Giroud. On revoit cet arrêt au ralenti décisif.
Non, on le reverra
Giroud, à la fin du match, dit-il. Mike fait un superbe arrêt. C'est bon pour la confiance et pour le club. On est sur une belle dynamique et dans un beau projet. Ça faisait 11 ans que Milan attendait de nous retrouver dans les 8 dernières équipes européennes en course pour le trophée. Maintenant, on va profiter.
Mike, il aurait pu rajouter Mike, mon copain de l'équipe de France, oui, que je vais retrouver. Dans
exactement.
Sa campagne, Alicia.
Et c'est lui le héros en Italie. Aujourd'hui, on retrouve Mike Maignan en une de la Gazzetta dello Sport, le gardien français encerclé par ses coéquipiers. Milan roi, titre la Gazzetta dello Sport. Une pleine page aussi dans le journal italien lui est consacrée. Le mur de la Champions League, écrit la Gazzetta. Maignan, le patron, celui qui a guidé les chevaliers. Là, on a un jargon qui est vraiment noble chevalier pour Mike Maignan. Et c'est le joueur qui a eu la meilleure note de l'équipe avec un 8 sur 10 dans le journal italien.
Ouais, Jérôme, est-ce que le dernier arrêt de la 93e minute, il est dur?
En fait, il n'est pas super dur. Il est dur à ce moment-là. Parce que quand on est gardien, à ce moment-là, bah, c'est un peu comme vous, le penalty à 95e. Hein. T'as les jambes qui tremblent. Faut pas croire, les gardiens, on est aussi fébrile parfois en fin de match. Enfin, il faut pas le montrer. Et puis, donc cet arrêt, il est dur, parce qu'il fait un moment donné où t'as le cœur qui bat. Ou, voilà, donc techniquement, il est pas facile. Et à ce moment-là du match, il est pas facile. Oui. Et juste dire pour le Milan, l'écart entre Mike et sa doublure, tu m'étonnes qu'ils sont contents, les mecs. Parce que Tataru Sanou, c'est quand même pas une Lulu, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, par rapport à Mike, c'est ça et ça.
L'écart peut-être avec Donnarumma aussi. L'ancien gardien du Milan.
Il
l'a fait oublier Donnarumma, excusez-moi, Mike Maignan.
Ah oui, je pensais que vous disiez au PSG.
Ah oui, mais non, parce qu'il parlait de la doublure. Je dis avant, c'était Donnarumma. Et on se disait, les supporters italiens n'arriveront pas à l'oublier. Il a fait oublier Donnarumma.
Je suis sûr qu'il est très.
Non, je ne compare pas le niveau des deux.
Très, 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 très fort. Après, on a tous la même inquiétude par rapport à son mollet, parce que ce n'est pas la première fois.
Et c'est
très long à chaque fois, et que le mollet, c'est hyper embêtant.
On veut le voir en bleu, en tout cas. Pogba, absent du groupe de la Juve de ce soir contre Francfort.
Oui, exactement, mais il n'est pas blessé. Paul Pogba n'est pas dans le groupe de la Juve pour raison disciplinaire. L'international français est arrivé en retard au rassemblement de la Juve hier soir, ce qui lui a valu cette sanction. Lui, je vous le rappelle, qu'il n'avait plus joué depuis sa blessure en genou en juillet. Il avait fait son retour sur les terrains contre le Torino le 28 février. Il avait joué également ce week-end contre l'AS Rome quelques minutes. C'est une sanction qui tombe mal à une semaine de la liste des Bleus, ça sera la semaine prochaine, jeudi prochain, la liste de Didier Deschamps.
Je vous ai tous vu hocher la tête. Djibril, vous avez l'air las. Vous avez l'air un poil fatigué du truc.
Ouais, parce que je l'adore, mais il...
T'as que ça, arrête.
Par là, tu viens de revenir. Fais-toi bien une demi-heure avant, une heure avant. Fais-toi des soins avant. Je sais pas, il y a toujours un truc à faire avant.
Mais c'est quoi ta journée? Elle est trop chargée pour... Non, mais des fois, je me demande. Je me dis, mais quoi, il y a des bouchons, tu savais pas? Et c'est pas dans les démagogues.
Non, mais surtout
tout,
quand on a vu la sortie de son entraîneur.
C'est dommage, ça.
C'est pas de la démagogie du tout. C'est juste de dire, mais t'as que ça à foutre, quoi. Putain, ça fait un an que tu joues pas. Putain, mais à un moment donné.
Attention, gros mot quand même, 19h13. Regardez, tiens, vous allez me finir foutoir tranquillement sur le banc, mon petit jeu.
À cause de.
Voilà. Attends, agression! Agression! J'avais du faux d'avoir des mimines de gardien parce que sinon.
Rouge.
Vous voulez aller lui casser le. Allez-y, Raphaël.
J'ai toujours aimé de faire ça.
Oh, bon, bah du coup, j'ai continué le foutoir.
Il a fait mal.
Il a vraiment fait mal.
Qu'est-ce que c'est que cette émission?
Il a vraiment fait mal.
Qu'est-ce que c'est que cette émission?
C'est pour vous que je l'ai fait, Greg.
C'est quoi?
C'est terrible ce qui s'est passé.
C'est vrai que ça me faisait penser.
C'est un soldat quand même.
Ça me fait... Ah ouais, c'est... Bravo.
C'est un soldat.
Bon combat, bravo. Bravo, Raphaël.
C'est pour vous que je l'ai fait.
Là, j'ai pas compris quand même. C'est magnifique. les filles. Là, là vous me l'avez broyé, mon Rafou. Bah, restez-vous si vous avez la, la colonne. Vous allez pouvoir enchaîner. Ça, ça m'a fait penser à Bundes qui se faisait fracasser par Lucas Hernandez. Lucas Hernandez a repris la course.
Lucas Hernandez, oui, qui a repris la course. C'est au centre d'entraînement du Bayern Munich, le défenseur international français, qui a effectué plusieurs tours de terrain pendant une vingtaine de minutes. Bon, il aura encore besoin de plusieurs semaines avant de pouvoir envisager de fêter son retour, mais il espère désormais rejouer avant la fin de la saison, Lucas Hernandez.
Il n'y a pas d'interview.
Mettez tes lunettes.
Non, il n'y a pas d'interview.
Il n'y a pas d'interview. Bah, très bien. Bah, remettez vos lunettes parce qu'on va enchaîner avec Laurent Blanc. Il a poussé un coup de gueule. Il n'était pas content, Lolo.
Qui a évoqué la programmation de la demi-finale de Coupe de France entre Nantes et Lyon. Début avril, il a regretté de défier les Canaries trois jours après le choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Écoutez Laurent Blanc.
On l'écoute.
Il y a le match de Coupe, effectivement, qui est au milieu de deux gros matchs. Paris et Rennes. Toulouse et Annecy jouent le jeudi, alors qu'ils auront joué le samedi. Et les deux équipes qui jouent le dimanche, ils jouent le mercredi. Donc bon, des fois, il y a des choses qui... on va se dire, ouais, pour 24 heures. C'est... Ouais, mais 24 heures, je peux te dire que tu peux récupérer un joueur sur 24 heures.
Décale-moi. Ah, Laurent Blanc, il n'est pas très content, ouais. Laurent Blanc. Dominique, Laurent Blanc, le retour à Lyon en quelques secondes. C'est un peu désabusé, là.
Compliqué, quand même.
D'accord.
Je crois que votre tête suffit. À mon avis, il ne s'attendait pas à ça. Hein.
Mais les résultats sont pas si mal,
je crois. Hein.
Voilà, mais...
Les résultats.
Parce que Loïc a parié que Lyon finirait la saison en trombe, mais hein, Loïc, non.
Il faut gagner à Nantes. Hein.
Ouais, moi je pense qu'ils peuvent, ils peuvent le faire. Ah, oui. Ça, bon. Mais les résultats sont pas si mal quand même. Je déconne pas avec ça.
Ouais, 19h16, c'est ce qu'on va faire là. On va rappeler Jérôme Alonso. Revenez Pépère, hein, le broyeur de l'équipe de Greg. Et voici le comique, c'est Pierre-Antoine Damcourt, quoi, la petite Lucas.
Je me suis défendu. Hein.
J'ai plus de mots sur ce qui vient de se passer. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment ça, vous n'avez pas vu?
Non, nous, on est dans les...
Pinot vient de... Non, merci pour le replay. Vous n'avez pas vu?
Non, j'ai pas vu.
Il s'est fait broyer par Jérôme au sol.
C'est-à-dire
que physiquement, c'est pas le même...
Non, c'est pas le même gabarit.
C'est pas la même bestiole, quoi. Ah, vous avez les lunettes de travers, Harry Potter.
C'est pas grave, mais elles sont pas cassées. Tout ça, c'est pas...
Il peut vous le payer, la déchouette.
Bon, en tout cas, c'est bien. On est bien sur la chaîne L'Équipe. Parce qu'on parle de foot hier on, et puis on voyage. Hier, on était à Munich et on était aussi à Lima, au Pérou. Ah, c'est dingue.
Ah bon?
Ah ouais? Et on voyage avec Didier Roustan. Sympa cette petite. Ça fait du bien, ça fait du bien, ouais. Loïc Tanzi nous emmène au Chili. C'est bien. Il y a tout
voyage, ce qu'il faut. C'est
spirituel. Allez, petit tour des terrains. Après, vous allez voir que Christophe Galtier est fort au jeu du ni oui ni non. Mais avant, on s'échauffe un peu. C'est parti. Direction les coups francs, longue distance. Ce coup franc, longue distance. Régalez-vous. Oh. Championnat saoudien.
C'est beau celui-là.
Et il est très fort en Europe. En ce moment, du coup, niveau visibilité, c'était pas top. Hein. Même les joueurs, ils se sont dit, bah vas-y, frappe, je sais pas où c'est, mais ça ira bien quelque part. Et ouais, la dameuse est passée à la mi-temps. La Sémilan s'est qualifiée hier pour les quarts de finale. Et regardez, il y a un journaliste qui s'est mis comme ça pendant 10 minutes. Je crois qu'il a imité il était bloqué. Ah ouais, on le retrouvera tout à l'heure, non? Pardon, Olivier Giroud, lui, regardez l'invité de CBS Sport.
Ah, le gars est mignon, attention!
Ah ouais, petit message pour lui. Souvenez-vous, hier, on vous montrait ce but incroyable inscrit en hockey sur glace.
C'est extraordinaire, ça.
Et bah, cette journaliste a tenté de l'imiter avec un petit peu moins de réussite. Ouais, non, ça n'a pas marché. Elle a tout pété, elle a pété le studio, vous vous rendez compte?
Ah bah, elle a bien frappé, en fait.
C'est vrai.
Ah oui, mais là, a pu.
Il n'y a plus. Ouais, non, il ne faut pas faire ça. Les écrans coûtent cher. On évite.
Très mal.
Alors voilà, le PSG éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est quand même une petite surprise avec cet effectif-là, quand même. Alors, le coach du PSG, arrivé en conf, vous avez vu, il a. Ah bah il a trouvé l'excuse. Non mais elle était là. On l'avait pas vu. Si, on l'avait vu venir quand même.
Ouais,
elle est là.
Un calendrier très chargé avec le championnat, la Coupe du Monde. Après, c'est l'histoire d'une saison très particulière et avec un calendrier très chargé.
Et oui, le calendrier très chargé que le Bayern, non. Le Bayern n'a pas un calendrier très chargé. Ils jouent un match tous les 15 jours, ils sont tranquilles, les gars.
Il n'y a que Paris.
Et alors, Christophe Galtier, on a découvert un talent caché hier soir. Il est incollable au ni oui ni non. Vous lui faites un ni oui ni non, le Christophe. Jamais il va dire ni oui ni non, il peut tenir des heures. Regardez, c'est parti.
Est-ce que même si vous gagnez le championnat, on peut déjà dire que la saison est un échec?
Sur le temps, c'est...
On va faire en sorte de...
Ah, il est fort.
D'aller chercher le titre de champion.
Il est fort, allez, on réessaye. Ni oui, ni non.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est à cause de la construction de votre effectif que le PSG a été de nouveau éliminé en 8e de finale?
C'est pas une question de construction, c'est l'histoire d'une saison singulière avec un calendrier très chargé pour mes joueurs.
Allez, dernière chance, ni oui, ni non, monsieur Galtier.
Est-ce que c'est aussi une victoire tactique de la part de Nagelsmann?
Vous pouvez l'estimer.
Ouais, vous pouvez l'estimer. Il est fort. C'est presque oui. Alors hier, il n'y a pas que les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont passé une sale journée, enfin une sale soirée. À Munich, non. Bertrand Latour aussi. Ouais, c'était
un hommage.
Un hommage. Regardez. Allez, du vent, ça soufflait.
Oh. Oh, il fait le cheval.
On sort pas si mal en vrai.
Oh, le faillot.
Non, arrête, dis pas ça. Dis pas ça, c'est atroce.
Mais c'est rock'n'roll. Yeah.
Hey, c'est 10,
bah voilà. Ça, c'est rock'n'roll et ça part à la gâchère, je savais.
Bien sûr,
c'est barré. Voilà, terminé. Alors, évidemment, ce soir, nous avons voulu nous rapprocher des supporters parisiens, voir leurs sentiments après ce match. Et c'est bizarre, c'est très bizarre ce qui se passe depuis ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Les équipes de foot à 11, vous savez, il y a 7 à 8 et nous, on a foot à 11. Les équipes de foot à 11 ont suivi un supporter du PSG. Ce n'est pas comme les années précédentes. Ouais, regardez, c'est bizarre.
Hier soir, le Paris Saint-Germain a encore une fois été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Nous avons rencontré Stéphane, supporter du club depuis toujours et qui, bizarrement, ce matin, s'est réveillé avec une drôle de sensation.
Bah, je comprends pas. Normalement, je suis déprimé, je suis abattu, j'ai chialé toute la nuit et là, rien. Ce matin, au réveil, j'avais limite le sourire, quoi. Hier, j'ai même pas gueulé pendant le match. À la fin, j'ai pris la télécommande comme ça. Paf, j'ai éteint et je suis allé me coucher. Normalement, j'explose ma télé. Enfin, je sais pas, l'année dernière, j'ai tapé dans un mur, j'ai eu des broches pendant 6 mois, quoi. Et là, rien du tout. Je comprends pas ce qui se passe.
Et nous avons constaté qu'il n'était pas le seul dans ce cas aujourd'hui.
Ça vous fait quoi, l'élimination de Paris?
Oh, franchement, je m'en fous complètement.
Vous n'êtes pas supporter de Paris?
Ah si, mais je m'en fous.
Non, mais vous savez, c'est du football, la vie est belle, j'y pense même pas.
C'est marrant, mais ça me fait ni chaud ni froid. On est nul, mais ça me fait rien.
Face à ce phénomène étrange, nous avons interrogé un médecin spécialiste afin de savoir pourquoi les supporters ne ressentaient ni colère ni tristesse.
Écoutez, il n'y a rien d'étrange. Les supporters du Paris Saint-Germain ont tellement été confrontés à la défaite, à la désillusion, à la honte en Ligue des Champions que leur corps a acquis une espèce d'immunité naturelle. Voilà. Ils ont fabriqué des anticorps qui aujourd'hui les empêchent de souffrir, d'avoir mal, d'être malheureux. Hein. Regardez comme exemple, nous avons l'élimination la saison dernière en Ligue des Champions. Vous voyez, le Real Madrid a infiltré les cellules du supporter. Hein. Ça leur a fait mal. Alors qu'hier soir, le Bayern n'a pas réussi à faire souffrir les supporters du Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas rentrés dans la cellule grâce à l'immunité naturelle développée par les supporters du PSG. Ce qui veut dire que ce matin, ils s'en battent les couilles.
Nous retrouvons Sylvain, un peu concon, qui a voulu tester sa nouvelle immunité contre la douleur.
C'est génial, je sens plus la douleur. Allez, on y va. Ah, à la vache, bordel de merde de cul. Ah là là. Eh oui, les anticorps, ça marche que pour le PSG. Hein. Sinon, dans la vie, bah, vous continuez à morfler.
Eh ouais. Croisés, ils disent, oh non, ça me fait plus rien. On est habitué.
Jérôme.
C'est triste quand même, c'est triste d'en arriver là, d'être habitué à la défaite, Jérôme.
Hein non, mais bon, non, le chauffez pas. Le chauffez pas,
il est habitué à la défaite. Allez,
je suis bien chaud.
C'est j'aime pas de défendre, hein,
il est bien chaud. J'aimerais bien débattre un jour avec vous là. Allez, on y va, c'est le top 10 de la semaine.
T'es fou.
Numéro 5, qu'est-ce qu'on a? Ah, Kevin Mayer, ça faisait longtemps, vous savez, il est toujours à l'or.
Ah, il est l'or, monseigneur.
C'est le Dauphiné qui nous sort ça. Numéro 4, vous savez, Nordin porte un masque depuis... c'est l'homme au masque de fer. F-A-I-R-E, F-E-R. Numéro 3, il est pas mal, c'est l'équipe. Et Thiago Monta.
Ah oui.
Eh oui, parce qu'il grimpe les échelons, tout ça, attention, il va arriver. Numéro 2, c'est SoFoot qui nous offre un...
métro, boulot, choupeau.
Oui.
Ouais, c'est sympa. Et numéro 1, alors là, c'est l'équipe avec Marseille qui barène grâce à Kolasinac. Et du coup, ça nous donne du Brescola.
Ah oui, là, ah ouais, bravo.
On est d'accord.
Ah ouais.
Rennes n'a pas dû aimer, je pense. Mais voilà, c'est un beau. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il c'est un bonus
en plus.
La journée de la flamme.
Bah, si vous voulez, la journée de la flamme. Pourquoi? Mais
voilà, là.
Ok, très bien.
C'est bien pas prévu là.
Là, c'est Kevin Juvin. Il s'est fait plaisir. Il s'est dit, bon, j'y vais. Je balance tout. On se quitte avec le petit basketteur qui nous a fait une Vitinha. Ah ouais, c'est ça, c'est, on appelle ça dans le métier.
Merci Pierre-Antoine, dans un instant on se demandera si le PSG peut vraiment changer. A tout de suite.
Je suis désolé.
De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous jouerons, on se demandera si le PSG peut vraiment changer cette fois-ci, après l'élimination. Tout ça, c'est après le zap, préparé ce soir par Romain Aran.
Non ! Nothing fluky about that.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il est monté haut, il est monté fort pour écraser ce dunk.
Il lance de très très loin. Pedersen avec Olaf Koy en deuxième position qui fait son effort maintenant. Il y a Matteo Trentin derrière. Pour l'instant, tout le monde est battu. Plein centre, c'est Olaf Koy. Et c'est Olaf Koy qui va s'imposer devant Matt Pedersen et Tim Merlier normalement. Bénédicte Doll en tête. Dernier tir pour lui.
Voilà pour ce zap. On va lire ensemble une déclaration d'une légende du PSG dans un instant. David Jonah, en parlant du changement au PSG. Donc préparez vos petites ardoises, préparez vos avis sur tout ça. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On joue, je vous ai pas oublié. Et tout à l'heure, on parlait de Marco Verratti. Vous allez me retrouver les 10 Italiens qui ont joué le plus de matchs en Ligue des Champions. Les 10 joueurs italiens qui ont joué le plus de matchs en Ligue des Champions. On est d'accord, là, la titulée est plutôt bien.
Depuis l'origine.
Depuis l'origine. J'ai commencé avec vous tout à l'heure à ma gauche. Alicia, je commence avec vous.
Buffon ?
Oui, 124 matchs. Raffou ?
Cannavaro.
Oui. Cannavaro, il est 18e. Il n'est pas dans le top 10. 62 matchs. Non, salut, mon Raffou. Djibril ?
Del Piero.
Il est 6e. 89 matchs.
Quand même.
Ça... Loïc ?
Au premier tour, vraiment.
Loïc, attention. Hein.
Oui, mais je vais perdre encore une fois.
Non, arrêtez.
Dans les 10,
oui.
Je vais dire Cassano. Il n'y est pas. Quoi? Allez, bonne soirée. Ouais, je pense à quelque chose.
Alors, s'il n'y est même pas 18ème.
Je ne sais pas quoi vous dire. Bonne soirée, Loïc Tanzi. Préparez le PSG pas parce que les jeux, ça ne peut pas le faire. C'est pour
les jeux, en ce moment, c'est pas.
Jay.
Paolo Maldini.
Mais oui, Paolo Maldini. 135 matchs de Ligue des Champions, c'est le numéro 1. Petit jeune qui démarre, plutôt pas mal. Dom.
Baresi.
Franco Baresi.
C'était pas la Ligue des Champions à l'époque.
C'est quoi?
Coupe des Clubs Champions.
Ah oui, c'est la Ligue des Champions.
Quand bien même il n'y est pas. Même en C1, il n'est pas dans le top 10. Mais je comprends, je me serais fait piéger aussi. Ouais. C'est un bon petit défenseur. Ah, oui. Alicia.
Bonucci,
84 matchs. Djibril.
J'ai envie de dire Nesta.
Nesta, 99 matchs. Bien joué, il est quatrième. Jérôme.
Gianfranco Zola.
Zola. Ed Zola n'est pas dans le top 10. Alicia.
Ouais. C'est pas mal joué, ça.
Non, mais tous tentèrent. Tous les noms que vous avez donnés, franchement, je pense que devant la télé, il l'aurait joué aussi.
Et Bonucci.
On ne peut pas tricher, on ne peut pas papoter, les gars.
Attention, là-bas. Chiellini.
Chiellini.
Oui.
Si, il y a Bonucci, il y a Chiellini. Et non, il est 15e. 74 matchs.
Ah oui.
Djibril, alors attention, c'est pour la victoire.
Ah, je finis là.
Bah là, ouais. Si vous trouvez, vous gagnez.
Pirlo.
Oui, bah, oui, bien sûr. Pirlo.
Oui.
108 matchs, 100 balles pour Djibril Cissé, s'il vous plaît. La victoire, voilà. Là, je peux vous dire qu'il va passer une très belle soirée.
Je suis content.
Alors attendez, c'était ce qu'il a dit.
Est-ce qu'on est tous mis d'accord avant pour le
faire? Ouais, c'est ça. Costa Curta, ça aurait été bien. 90 matchs. Il y avait
Pippo Inzaghi.
Vieri.
Non, Vieri, il n'y est pas. Il
n'y
est pas. Inzaghi, il est 10e. 81 matchs.
Mota.
Mota.
Viali.
8e. 82 matchs.
Viali, c'est avant.
Avant.
En gardien, il y a des gardiens.
Non, il n'y est pas.
Verratti.
Non, Verratti. Il est 11e.
Ah oui.
11e italien.
Il en manque combien là?
Il en manque un. C'est pas le plus connu de tous ceux qui est dans la liste.
Ambrosini.
82 matchs pour Ambrosini. Voilà. Donc, il y avait Gattuso, bravo, égalité avec Verratti en 11e position. Enfin, voilà pour ce jeu. Bravo Djibril Cissé.
Enfin, une bonne
très belle victoire. Là, je peux vous dire qu'il est heureux. Comme un gosse, Djibril. Il est là, il est là, elle est là, la victoire dans le DG. Comment ?
Deuxième.
Ouais, deuxième, c'est beau. On revient maintenant au PSG, la désillusion. Je vous parlais d'une déclaration de David Ginola. Il a dit ça au micro de nos confrères de Canal+. Regardez. Le Bayern a joué en équipe avec un esprit club. Et en face, on n'a pas encore cette culture du club. Cette fierté manque au PSG. Cette politique bling-bling est dépassée. Des mots qu'il a prononcés avec beaucoup d'émotion. Le cœur et le mot très fort de dépasser. Alors, est-ce que le PSG peut vraiment changer cette fois ? Regardons vos réponses. Je fais les promesses chaque été. J'ai un gros doute, hein, Alicia. Non, tant que la direction restera la direction. Je connais Dominique par cœur.
Du coup.
Pas maintenant. Ah, et pour Jérôme. Oui, ils peuvent changer pour Loïc. Oui, ils peuvent changer pour Djibril. Et oui, ils peuvent changer pour Raphaël. Tiens, bah, Dom, je vous fais commencer.
Non, tant que le pouvoir restera aux joueurs stars. Non, tant que Nasser, le président, ne se remettra pas en cause. Ça fait 12 ans que ça dure. Il passe à travers les gouttes. C'est quand même bizarre. Non, tant que le PSG restera une machine à broyer les joueurs, on va pas faire la liste des joueurs qui ont été bien meilleurs avant et qui sont redevenus depuis qu'ils ont quitté le PSG. Non, tant que le directeur sportif, quel qu'il soit, fera passer ses intérêts personnels avant ceux supérieurs du club. Non, tant que l'entraîneur sera à la merci des humeurs des joueurs stars, on revient toujours au même. Tant que le PSG sera une boutique, une immense boutique, un immense distributeur de billets avant d'être une équipe tendue vers un objectif seulement sportif. Et enfin, non, tant qu'un manager général compétent, indiscutable, incontestable, ne sera pas nommé à la tête de ce club.
Vous voulez poursuivre cette belle diatribe de Dominique?
Là, pour le coup, passer après, c'est pas facile.
Non. Parce que pour ça que je vous regarde.
Parfait,
mais vous étiez dans le nom, donc il faut aller dans le ton.
Et voilà. Et merci. Non, mais c'est parce que quand t'as été.
Vous donnez la moitié de la pitch de Jérôme à Dominique, s'il vous plaît. Merci.
Non, c'est nul, ce que t'as dit.
Ça va pas faire l'air.
Non, mais c'est évidemment tout ce qu'a dit Dom est vrai. Moi, j'ai peur du. Il faut changer par le haut, de toute façon. Et effectivement, je rêve du oui de mes amis. J'en rêve du oui, je veux le oui.
Ils n'ont pas déjà fait changer par le haut, à part Nasser.
Voilà, mais le problème, c'est que... C'est un exemple que j'ai pris l'autre fois, mais je crois qu'il n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Moi, j'ai compris qu'on avait perdu la bataille le jour où Nasser El Khelaifi a été voir jouer Aurier en réserve après l'affaire Aurier-Blanc.
Ouais.
Ce jour-là, j'ai compris que ce serait très dur.
Ah bah oui.
Cette année, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez au président?
Lui?
Ouais.
Mais est-ce que c'est pas lui qui... Enfin, effectivement, il connaît pas le football.
À part peut-être des prises de parole où il faut...
Il vient de te dire, il connaît pas le football.
Il y a un problème.
Il met des gens en place.
Ah, mais sans connaître. Mais pas les bons, Loïc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu dis, j'entends, et je vais finir là-dessus.
Et donc, quand Antero Henrique, Leonardo,
j'ai l'impression que chaque année, on défend Nasser.
Non, moi je défends pas, je demande ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui.
Faire de plus.
Et dans son rôle de président, attention.
Qui
devient président de...
Globalisation de la marque, il a gagné. Et ça, il est très bon là-dedans, on l'a dit tout à l'heure. En revanche, pour ce qui est des décisions.
C'est pas lui qui
est bon,
c'est les gens qu'il a mis en place qui sont bons.
Oui, eh ben, mais qui mettent des gens bons au niveau football. Ce serait pas mal aussi, peut-être.
Là, pour moi, tu disais, il faut partir par le haut pour essayer de tout changer. Mmh. Moi, je mets Nasser de côté parce que pour moi, Nasser, il est sur le sportif. Aujourd'hui, même s'il négocie le mercato, c'est pas forcément lui qui choisit les profils, etc. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est les joueurs. C'est ce qui a jamais été fait au club, c'est de changer les joueurs. C'est de dire, on parlait de Verratti, on parlait de Marquinhos, on parlait de Messi, on parlait de Neymar. Ce qui a jamais été fait au PSG.
Mais qui décide de changer les joueurs?
Ah bah c'est ce qu'ils bah, normalement décidé de faire maintenant.
Parce que c'est quand même ce qui s'est censé passer cet été quand ils ont dit tous les indésirables partent.
Mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Et ceux qui viennent, bon.
Oui, mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Et qui décide de prolonger? Attends, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc là, ils vont pouvoir, là?
Bah, ils vont essayer. Comme l'été dernier.
T'as répondu à ma question.
Tout à l'heure, on est dans l'an 1. Ouais. De ce qu'ils veulent faire maintenant.
Mais comme l'été dernier, précédents, comme disait le film d'horreur, souviens-toi l'été dernier.
Hein. Oui, c'est une éternelle rengaine avec Nasser El Khelaïfi, parce que souvenez-vous déjà, en 2016, il avait tapé du poing sur la table en disant qu'il voulait des changements, c'était chez nos confrères du Parisien. Ce ne sera pas facile pour tout le monde, mais c'est le moment de changer. C'était après la défaite du Paris Saint-Germain face à City en Ligue des Champions. Après 5 ans, il faut relancer un nouveau cycle. Nous rêvons grand, je le dis depuis mon arrivée. Nous voulons gagner la Ligue des Champions et je n'abandonnerai pas. Je suis confiant, un jour on descendra les Champs-Élysées avec ce trophée, mais pour y arriver, il faut changer certaines choses. Alors depuis, le Paris Saint-Germain a peut-être changé certaines choses, mais entre-temps est retombé dans ses travers, puisqu'il y a quelques mois, c'était en juin dernier, Nasser El Khelaïfi reprend la parole chez nos confrères du Parisien, et là on y retourne. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d'ailleurs changer notre slogan, qui est donc rêver plus grand. C'est bien, mais aujourd'hui nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis 11 ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleur. Et le constat est là et implacable. Ça ne change pas au Paris Saint-Germain.
Si pourtant, voilà, c'est ce que je voulais. C'est pour un petit peu appuyer ce que disait Loïc, c'est que cette saison, il y a eu beaucoup de départs. Alors peut-être que ce n'étaient pas les joueurs majeurs que l'on attendait, les stars, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de départs du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être quantitativement et qualitativement, mal remplacé, vous voyez, Gueye Paredes, Wijnaldum, Herrera sont partis, Vitinha, Ruiz, Renato Sanchez sont arrivés, Soler est arrivé, Di Maria est parti, Sarabia est parti cet hiver, Kalimuendo qui revenait de retour de prêt, bah lui est parti, on lui a substitué peut-être Ekitike. Voilà, il y a eu du mouvement, mais ce mouvement n'a pas fonctionné en tout cas.
Le tableau, il est dramatique.
Je vous en prie, mais on va écouter Thierry Henry parce qu'il a une idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
Quel est le plan? Quelle est l'identité? Quelle est la philosophie? J'ai dit très souvent qu'il y a une fracture entre le club et de nombreux supporters de l'ancien PSG. Ils préféraient presque l'ancien PSG. La stratégie ne serait-ce pas de prendre des jeunes Français de Paris et sa banlieue parce qu'ils ont grandi et adorent le club? Regardez Coman. Quand il a marqué, il n'a pas célébré.
C'est une idée comme une autre, pourquoi pas.
Ah, c'est une bonne idée.
Mais la politique de jeunes d'Henri, vous pensez qu'ils peuvent encore changer, ouais, avoir un an deux, comme le disait Loïc, avec Campos, par exemple, et Galtier?
Oui, pour justement ce que Dominique a dit. S'ils commencent à arrêter d'être...
Est-ce qu'ils peuvent, c'est ça?
D'être une marque plus qu'un club et qu'une équipe de foot. S'ils commencent à taper sur les joueurs qui méritent, et puis pas les jeunes et pas...
Est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça? Parce que la marque
est au firmament.
La marque est une des marques mondiales.
Oui, mais c'est fait, c'est posé. C'est posé, ça y est. La marque, elle ne bougera plus. Paris, le PSG, c'est PSG. Ça ne bougera plus.
Ils existent déjà, qui sont en train de mettre en place. Cette année, il n'y a pas de jeunes qui jouent. On sort d'un match où un défenseur central 2005... Qui est rentré dans le match, il y a un 2006 qui est rentré au milieu de terrain.
Oui, mais
il y a un 2002 qui rentre devant.
Ouais, mais forcé.
Vous voulez des jeunes.
Non, mais forcé. C'est forcé. C'est parce qu'il a rien
d'autre. C'est pas forcé. Parce qu'en début de saison, ils ont fait le choix de réduire l'effectif pour laisser de la place aux jeunes. Il manque deux recrues.
C'est parce qu'il
manque deux recrues.
Franchement, en défense centrale, il joue parce qu'il y a trois pétés.
Il manque deux recrues souhaitées. Il manque Skriniar qui devait arriver et il manque Ziyech. Vous mettez Skriniar et Ziyech. El Shaddai aurait eu du temps de jeu cette saison quand même, Bichouabou, le défenseur central. Zaïre Emery aurait eu du temps de jeu au milieu de terrain parce qu'il n'aurait pas...
Oui, mais ils sont pas, mais justement, vous pointez du doigt un truc qui est reproché ici, c'est qu'ils ne sont pas venus. C'est comment le PSG n'a pas pu signer Skriniar et pourquoi ça changerait, même si c'est validé pour l'an prochain.
C'est pas de leur faute. Skriniar, c'est une question financière. Ils ont le but, c'était...
Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut mettre autant d'argent sur d'autres en début de mercato pour être bloqué sur Skriniar, en fait? Pourquoi ils mettent pas... Alors, je vous pose la question, vous les suivez. Je pense qu'il y a plein de supporters du PSG qui se posent la question. Pourquoi vous mettez pas les 70 millions sur Skriniar et vous économisez un peu sur Ekitike, par exemple? Je raconte lui, hein.
Parce que, et là, pour le coup, c'est un choix de Nasser El Khelaïfi avec Antero Henrique. Le choix, c'est de se dire, on met pas 70 millions sur un joueur qu'on va avoir gratuit dans un an. C'est dire, on fait le choix d'attendre un an.
Okay. Donc c'est une stratégie.
Ce qui est arrivé cette année, on fait le choix de pas dépenser 70 millions d'euros parce qu'on a dit que c'était fini. On a dit que le bling-bling c'était fini au PSG, qu'on mettait pas de l'argent, jetait de l'argent en l'air et qu'on mettait pas 70 millions d'euros sur... Je vous donne leur point de vue, c'est pas mon avis.
Comment tu fais à ne jamais, parce que à chaque fois je vois Alicia son tableau, chaque année, on repart à zéro. Chaque année, c'est allez, on a compris, ça y est. Mais chaque année.
Non, mais là, ils repartent pas de zéro. Ils veulent continuer sur ce côté-là.
Tu n'identifies jamais tes besoins. Et on parlait tout à l'heure de Liverpool de Djib, où ils avaient identifié les besoins à des postes clés sans forcément avoir de stars, et en dépensant de l'argent au bon endroit et au bon moment.
Skriniar va venir pour zéro.
Skriniar, c'est pas Beckenbauer non plus, putain, moi.
Ah ben, bah, vous me dites si Skriniar vient, ça change tout. Maintenant, vous me dites si.
Galtier, est-ce que c'est lui qui sera entraîneur du PSG? Jérôme, est-ce que Galtier sera l'entraîneur du PSG? Est-ce que le duo Campos Galtier sera encore là? Est-ce qu'ils doivent être remis en question?
S'il continue sur cette lancée-là, moi non.
Tout peut arriver, tu le sais bien. Tout peut arriver. Ça, c'est ce club, tout peut arriver. Et du jour au lendemain.
Mais vous, est-ce que vous laisseriez une année 2 à Campos Galtier?
Bien sûr que non. Mais moi, la priorité, les priorités, je prends évidemment un manager général.
Donc vous changez Campos alors?
Non, mais je ne suis pas pour la mort du
non, je pas dit ça.
Avec Nasser El Khelaifi, qui laisse faire les professionnels.
Voilà. Mais là, il a donné le club à Campos, que disait-le. Mais vous avez raison, c'est insolu.
Mais quand il lui a laissé, j'en suis pas si sûr que ça.
Merci à tous les 6 d'avoir été là. Un grand merci à vous, hein, comme dirait Alicia. À 3, tout le monde, plateau, plan général. Merci, public. Merci beaucoup. magnifique. Dans un instant, il y a l'équipe du soir en première partie ou pas avec ce nouveau planning?
Je sais pas, mais sinon...
Oui, il y a l'équipe du soir en première partie. Je sais pas, on commence plus tard, on finit plus tard. Je suis en panique. Demain, c'est Karine Galli qui est avec vous à partir de 17h15. Très belle soirée sur la chaîne L'Équipe.